partie là, c'est un embarras, c'est quelque chose de métaphysiquement présent et qui relève de l'au-delà de l'unité des deux, ce qu'on appelle l'unité spensale. Cette tension entre les gamètes paternels, féminins et masculins, porte le mouvement de la réalité embryonnaire.
Vous pouvez recommencer.
Non.
Bon.
Porte. Alors, l'époux porte avec lui les conséquences du péché originel et ses séquelles. L'épouse porte les conséquences du péché originel et ses séquelles. L'unité de l'époux et de l'épouse porte les conséquences et les séquelles du péché originel. Mais l'au-delà, le point ontologique de l'au-delà de l'unité des dieux, ne porte pas les séquelles du péché originel. C'est pour ça que le blanc, le bleu, pardon, est. Le jaune porte les séquelles du péché originel, l'unité des deux aussi. Mais ce qui en émane dans le point ontologique de l'unité spensale, le vert, n'a aucune séquelle du péché originel dedans. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le nid et la matière du sacrement de mariage. Le monde nouveau après le cinquième épisode de l'Apocalypse. Dans la signification spensale du corps, c'est prodigieusement important de savoir qu'il faudra, dans la paternité et la maternité raisonnable, concevoir les enfants dans le point ontologique de l'unité spensale, au-delà de l'unité des deux. Ça, c'est un fruit du sacrement.
D'accord.
Comme ça, on sera en affinité avec la porte ouverte presque sans voile avec l'Immaculée Conception. Apprentissage qui aura été fait pendant la demi-heure que nous allons connaître. C'est l'apprentissage, la connaissance, la maîtrise la plus parfaite possible, en tout cas, au moins commençante, du corps et la signification sponsale du corps. Si vous nous avez interrogé un jour dans un ermitage, sans savoir qu'est-ce que c'était que le péché originel,
oui, j'ai compris.
Si c'était une copulation qui avait fait le péché originel.
C'est vrai que c'est une question sérieuse. Ça a rendu bien les derniers temps. Hein.
Est-ce que
quelqu'un a dit
c'était une question sérieuse?
Ça peut parce que. À cause du.
D'accord. D'accord. Donc, normalement, la sagesse créatrice de Dieu, s'il n'y avait pas eu le péché originel, si la peau et l'épouse étaient demeurées comme ça dans la communion des personnes à la terre, de la grâce sanctifiante. Bien sûr que ni l'époux n'aurait été entravé par les séquelles du péché originel, donc avec une espèce de petite division entre la grâce, l'âme et la signification spirituelle du corps. S'il y avait une unité dans l'un et l'unité dans l'autre, et bien forcément la relation à l'autre, c'était l'un dans l'unité des deux, et donc il y aurait eu forcément à ce moment-là une unité, un autre de l'unité spensale sans entrave. Et à ce moment-là, la communion des deux dans une ferveur totale d'oraison de mariage spirituel avec Dieu aurait opéré la transmétamorphose surnaturelle de la grâce originelle. Cette transmétamorphose spensale, elle serait établie exactement comme le Christ avec la nouvelle Ève au mont Tabor, dans un état de transfiguration unitive, lumineuse, incarnée. Et dans cet état, comme une lumière traverse une autre lumière, comme le Christ traverse les portes du cénacle sans l'abîmer, alors à ce moment-là, il y aurait eu cette fécondation, mais de l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur, de l'intérieur de la fécondation. Et ça aurait bien été, en effet, sous un mode de transfiguration originelle, il y aurait eu à ce moment-là le nouveau génome. Et ça aurait bien été avec l'ovule, ça aurait bien été effectivement avec l'énergie de l'homme. Toutes ces choses-là sont très bien expliquées par Anne-Catherine Brick, mais c'est pas ça, ce gars, du moins c'est Dieu, Jésus qui explique ça. Ça, c'est le premier mode originel. La sagesse créatrice de Dieu avait prévu ta sagesse, créatrice, tant qu'il y est, ce qui est expliqué dans cette interview là, que vous avez fait, ce serait réalisé et il y aurait eu donc des conceptions immaculées selon le mode, selon le fondement et aussi selon le terme du mode de la conception des trois. D'accord ? C'est assez facile à comprendre. C'est bon, si vous préférez, alors plus concrètement.
Je vous laisse.
Ah oui.
Je suis obligé de m'affronter.
Attendez, je vais le faire, ça.
Il y a plus de...
Donc, plus concrètement, Adam et Ève, lorsqu'ils ont corrélé ensemble, proximité l'un de l'autre, voilà, dans la porte du paradis terrestre et la porte du Messie, la présence de Dieu, il y aurait une espèce de cabote, une espèce de gloire, qu'ils auront emporté, qu'ils auront enveloppé, introduit, intériorisé, dans une humanité qui n'est ni homme ni femme, et à laquelle la fécondation aurait eu lieu tout simplement dans un mariage spirituel sponsal, originel. C'est une espèce d'accomplissement de la grâce à cause d'un état de ferveur. Et à ce moment-là, les enfants seraient nés, conçus, puis seraient nés. D'ailleurs, ils seraient nés sans abîmer la femme, ce serait la naissance elle-même se serait réalisé également dans un état de transmigration sponsale, de sorte que les enfants seraient nés en traversant la mer sans l'abîmer, dans un état de transfiguration, parce que la transfiguration du corps établit le corps dans un état d'intoxicité, de luminosité, d'impassibilité, de subtilité, d'une propriété normale du corps naturel selon la sagesse créatrice. D'accord ? Donc aussi bien la conception que la naissance. C'est comme ça qu'Ève aurait dû rester toujours vierge. Pour donner un sens à une multitude. Ça, c'était ce que la création de Dieu avait prévu dans sa sagesse créatrice. Et du coup, il n'y aurait pas eu de rupture, il n'y aurait pas eu de déchirure, il n'y aurait pas eu non plus de mort, il n'y aurait pas non plus de maladie. Et une fois que tous ces enfants de Dieu et de l'homme, une fois qu'ils auraient été c'est reparti. C'est reparti, là, l'électricité est repartie, c'est ça ? Elle a disparu à nouveau ?
Oui, en plus aujourd'hui, en tant qu'ouvert, ça fonctionne au quart de leur capacité, elle n'est pas donc.
Pourtant, on n'a pas tiré sur l'eau aussi.
Non. Je vais quand même essayer de réfléchir, moi.
Oui, merci Jean-Luc. Ah, ça, la sagesse créatrice de Dieu. Or, Dieu ne renonce jamais à sa sagesse créatrice. Voilà. Tu ne renonces pas. Alors, l'alliance demeure. L'alliance demeure. Et du coup, elle demeure au niveau biologique. Parce que la volonté de l'homme s'est dégagée. Elle demeure au niveau biologique. Et voilà pourquoi, au niveau biologique, il y a ce processus. L'alliance demeure au niveau de la procréation, mais dans le point de vue spirituel du corps. Et justement, le corps est né spirituel que dans le point ontologique de l'unité sponsale qui va, après la fécondation, vers le génome. Là, c'est spirituel. Hein, c'est un processus spirituel et biologique. Et donc, la sagesse créée, l'alliance se fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans cette période-là de la fécondation, qui dure dans une éprouvette entre 20 et 30 heures, en PMA, dans certaines conditions, une dizaine d'heures, mais in utero, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 2 heures. Ce processus-là est un processus de sagesse créatrice du corps spirituel ou la sagesse créatrice porte. Unité sponsale, oh, décrocher des séquelles du péché originel vers la constitution du génome dans l'intérieur duquel la sagesse créatrice fait apparaître l'âme spirituelle nouvellement donnée et créée du nouvel enfant. Cette alliance avec cette alliance procréatrice, le livre de la Genèse indique qu'elle reste. Tu ne renonces pas à son alliance du point de vue de la procréation. Et ça se réalise donc selon ce mode, d'un point de vue biologique, maintenant on sait très bien que c'est comme ça. Dans l'observation clinique, on le sait. Voilà. Donc à partir de là, Marie est la fille de Joachim. C'est fini, il n'y a plus rien. Marie est la fille de son papa, la fille de sa maman, la fille de l'unité sponsale, son papa de sa maman. À être engendré à partir de son époux qui est Saint Joseph. Donc on sait très bien ce moment où Joseph est emporté dans le mariage spirituel, assumé en Dieu dans sa tarte des mains qu'il mérite pour l'unité sponsale de Marie-Dan et Joachim une grâce d'unité sponsale surnaturelle chrétienne accomplie. C'est une trace de concupiscence et les dieux connaissent effectivement sur la porte du roi du temple, c'est dans le Saint des Saints, tout proche du Saint des Saints, c'est-à-dire du sanctuaire de la créature de Dieu, tout proche, collé à ça, il rentre dans une unité sponsale qui fait émaner une sponsalité transfigurée à l'état pur, sans trace de concupiscence. Et il y a bien les deux. Il va présider à la création de l'Immaculée Conception, mais c'est selon un mode, cette fois-ci surnaturel, chrétien, qui n'est pas le même mode que le mode surnaturel sanctifiant d'Adam et Ève, qui eût été en œuvre s'il n'y a pas eu le péché originel en Adam et Ève. Ça n'a jamais eu lieu. Donc ce n'est pas le même mode. C'est un mode de grâce sanctifiante en plénitude accomplie et en plénitude reçue. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est une chose maintenant. C'est un mode, c'est pas du tout la même chose. Il y a encore un autre. C'est là qu'on étudie la sponsalité avec les textes du pape Jean-Paul II. On s'aperçoit, parce qu'on regarde bien, qu'il y a beaucoup, il y a des gens établis en plénitude, des saints qui sont établis en plénitude, des conceptions, dans une conception parfaitement bénie. C'est par exemple Jean-Baptiste. L'ange Gabriel apparaît dans le Saint des Saints. D'où vient, comment, quel est le mode de l'unité sponsale qui a précédé à la conception de Jean-Baptiste. L'énergie, du moins la petite boule de bénédiction palpable, incarnée, qui a été introduite à l'intérieur de Zacharie dans le Saint des Saints à l'apparition de l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'elle a opéré et comment a-t-elle opéré lorsqu'il avait 80, je ne sais pas quel âge, quand elle a opéré, comment est-ce qu'elle s'est opérée dans cette unité sponsale avec Elie Chevaux pour réaliser la conception. Elle était quand même très âgée et totalement stérile. Voilà, donc c'est un autre mode. Celui de l'Immaculée Conception, c'est pas la même chose. Il ne s'est pas réalisé de la même manière dans l'union conjugale. Et il y a aussi une autre mode, donc c'est pas pareil à chaque fois. Il y a un autre mode dans le mariage, par exemple, entre. Là, ici, confondez un petit peu. Entre Marie, par exemple, et Joseph. C'est un mariage. Là, il y a une unité sponsale. Donc, ils sont un en une seule chair. Il y a une nomination dans leur chair qui émane de l'unité des deux, ils sont en une seule chair, éperdument perdu l'un de l'autre, dans l'au-delà de l'unité des deux, une seule chair. C'est pas le même mode non plus. Mais ça réalise bien sûr en Marie, dans son sang, comme l'explique le pape dans Jean-Paul II dans son encyclique Saint-Joseph, l'existence biologique, VL, les cellules staminales, qui appartiennent à la Sainte Famille, dans laquelle le Verbe de Dieu va s'inscrire pour se créer un corps. C'est quand même pas du tout le même mode. C'est un autre mode. Enfin bref, il y en a cinq comme ça de mode pour la conception. Et puis, et il faut bien regarder à chaque fois les cinq, c'est normal, parce qu'il y en a un qui est selon la vie, un qui est selon l'amour, un qui est selon le devenir substantiel, un qui est selon la mémoria dei et l'indivisibilité de Dieu, voilà, et un qui est le cinquième, lequel j'ai oublié, je ne sais plus, qui est selon la lumière. Et l'idéal, bien sûr, là où c'est le plus fort, c'est quand les cinq sont ensemble. Et quand on prépare les gens au mariage, on leur apprend à rentrer dans cette voie-là, dans cette voie-là, dans cette voie-là, dans cette voie-là, voilà, dans l'unité du corps de l'homme et de la femme. Et d'éviter les deux qui sont déchus. Sur le mariage. Alors on me dirait, il y a aussi les jumeaux. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... les jumeaux, c'est quand même bien aussi, quoi. Par exemple, Abel. Abel. C'est un jumeau et une jumelle. Parce que Dieu, dans sa sagesse créatrice, comme l'explique Jésus, le Christ l'a expliqué à Moïse, sur le mont Sinaï, il a expliqué, le Messie a expliqué à Moïse que la sagesse créatrice de Dieu avait prévu que les conceptions se fassent deux par deux. Le fait qu'on soit seul dans le sein maternel pendant 9 mois, c'est une conséquence tragique du péché originel. À laquelle ont échappé, grâce à Dieu, quelques personnes qui sont jumeaux. Mais vous, si vous n'êtes pas jumeaux, vous êtes malheureusement tombés dans la boue tragique de l'hypnose transcendantale pendant 9 mois. Ce qui vous rend totalement imperméable à la compréhension de ces choses toutes simples, hyper faciles, non pas à imaginer, mais à revivre et à mettre en place dans le corps, parce que la mise en place du corps, la signification responsable du corps, c'est essentiel pour le monde nouveau, pour le règne du Sacré-Cœur à partir de la France. Pour la disparition totale de l'Antichrist de la Terre. C'est essentiel. C'est une condition sine qua non. Mais vous qui avez été conçu tout seul pendant 9 mois, vous avez été tragiquement. C'est un véritable désastre. Et le jumeau, lui, c'est. Et même chez les jumeaux, il va y avoir différents cas de figure, quoi. Hein, et par exemple, donc Adam et Ève, ça c'est les midrash rabbiniques qui disent que Adam et Ève, après le péché originel, ont fait pénitence. Et c'est 100 ans après qu'ils se sont retrouvés dans leur raison, au bout de 100 ans. C'était à un endroit sur un plateau qui se trouve actuellement en Éthiopie. Ils sont retrouvés là et ils ont réalisé l'unité immaculée, transfigurée en une seule chair, en présence de Dieu, dans la plénitude d'un mariage spirituel parfait. Et c'est là qu'ils ont conçu Abel. et sa sœur, les deux jumeaux. Et encore aujourd'hui, sur un espace comme ça de 1 kilomètre, toutes les roches sont parfaitement immaculées. Toutes sortes de couleurs, limpides, pures. Un jour, on m'en a ramené un morceau comme ça. Et là, donc, ils étaient deux. Et comme ils étaient deux, ils avaient un de miroir qui est ma mère, qui est ma soeur, qui est mon frère. Et donc là, ils étaient tous les deux. Et donc quand on est jumeaux, on a un accès, si je puis dire, quasiment immédiat. Il y a un voile, mais il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup de liberté, et donc on aperçoit et on assiste à la création de Dieu dans l'autre. Et c'est l'autre qui fait l'unité de l'un en moi. Parce que la relation à l'autre, c'est l'un. Et l'un, c'est la relation à l'autre. Et donc, dès le départ de la liberté, le jumeau, il vit ça, il sait. Pour lui, ce n'est pas étonnant, pour lui, c'est normal. Et ça leur reste jusqu'à ce qu'il ait 10, 20, 30, 50, 70 ans. L'offrande, et c'est pas la même chose, la spontanéité. Et puis, l'unité se mêle dans la liberté du ton. Ou la relation à l'autre, c'est là. Et la relation à l'autre, une capacité à la reprise en main du corps originel chez le jumeau, et le jumel qui permet l'offrande. Ce qui explique beaucoup d'ailleurs le problème qu'il y a entre Caïn et Abel. Et c'est un gros problème qui s'est posé. La relation qu'il y avait entre Caïn dans son offrande, dans l'unité de l'un, et Abel. Caïn. Il s'apercevait bien qu'Abel, dans son offrande, était dans une offrande qui impliquait un rayonnement, une unité totale de la création à travers lui, en Dieu, le ciel dans la terre dans le ciel. Ça se voyait, donc il voyait que lui, il n'avait pas ça. Là, il ne regardait pas son offrande, il regardait son frère. C'est ça, c'est une des conséquences, c'est la prise de conscience des conséquences du péché originel. C'est pour ça, quand vous me dites dans votre cours de théologie, du péché originel n'a jamais existé, attends, il n'y en a plus. C'est tellement désopilant d'imaginer que des gens puissent penser un truc aussi stupide, alors qu'on en fait l'expérience tous les jours. Ne dites pas ça à un jumeau, il va éclater de rire, rouler par terre sous la table. Donc le jumeau, lui, évidemment, de quelle manière on va se retrouver deux pendant 9 mois? Ah, là, il y a différents processus, comme il dit. C'était pour la table, votre travail. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un, effectivement, qui est issu, premier génome. Il développe son. Il se développe, il fait ses premiers développements, ses premières heures. Et puis lorsqu'il y a une centaine, ça dépend. C'est variable d'ailleurs, ça peut être. Un jour après, ça peut être 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. Je crois 18% c'est 4 jours après. 5 jours après, 6 jours après. Il y a une des cellules du premier jumeau qui est totipotente, qui va aller en cellule polaire, enfin si je puis dire, c'est pas comme ça qu'on dit, mais. Et qui va être la première cellule du second jumeau. Donc le jumeau, il y en a un des deux jumeaux, ils vont vivre ensemble comme ça. Ils vont l'un profiter dans son existence, de l'existence de l'autre dans la lumière de la transfiguration, et l'autre assister à la création du second. C'est extraordinaire. Et ceci, non pas à partir du point ontologique du responsable des parents, en dehors de ce qu'elle dit survenir, et du processus pro persona. C'est sûr que pour ça, c'est pas tout à fait le même mode pour ce deuxième jumeau de réaliser sa venue à la vie, à l'existence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, et donc il y a plusieurs choses. Il y a la prise en main de son corps originel dans l'un, la mise en place de la signification responsable du corps masculin, du corps féminin, la prise en main et la réalisation de l'unité des deux dans la mission surnaturelle responsable transactuée de notre vie à l'intérieur de notre corps. Et il y a le corps eucharistique de Jésus vivant et entier, engendré par la mère divine, la Jérusalem glorieuse de la fin, jusqu'à nous dans le baiser du véritable amour, qui transforme du coup tout le temps notre corps primordial, notre corps actuel, pardon, je m'excuse, voilà, et qui nous rend accessible à la fécondation et à l'engendrement du corps spirituel de résurrection venu d'en haut, voilà les sept corps. De bien maîtriser l'advenu et l'animation selon leur mode propre à chacun de ces sept modalités du corps. Donc pour résumer, 5, c'est déjà mieux. C'est pour simplifier, 5 déjà, c'est pas mal. C'est une chose qui va devenir essentielle. Ça, c'est pas la théologie du corps, mais c'est pas la théologie. On devrait mettre un grand trait sur le mot théologie, parce que c'est tellement théologie.
Vous le remplacez
par quoi? Expérience.
Expérience de Dieu?
Non, expérience du corps.
Ah, expérience du corps.
Expérience responsable du corps.
Oui, mais pourtant Jean-Paul II a donné les lettres de noblesse à la théologie du corps.
Oui, c'est ce que nous avons expliqué là pendant une demi-heure, oui. Mais vous n'étiez pas là parce que... Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça. Donc le... Tout ça, c'est... Je reconnais, il faudrait faire un nouveau responsabilité. Responsabilité 2017, il faudrait faire. Est-ce qu'on a fait responsabilité 94, responsabilité 2007.
Est-ce que quelque part...
Donc voilà, c'était... Ouais, il faudrait faire responsabilité 2020, hein, c'est ça?
Est-ce que quelque part...
2020 tous les 13 ans.
Hein. Et est-ce que quelque part... Le...
Tous les 12 ans.
Hein. Est-ce que quelque part le... la problématique de la responsabilité... n'a pas quelque chose à voir, on ne pourrait pas un peu...
L'expérience responsable de la responsabilité, il n'y a pas de problématique. La problématique en responsabilité n'existe pas.
Bon. Est-ce que...
Non, mais vous savez, les mots, c'est important.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi s'appuyer un petit peu sur la théologie de l'alliance? Parce que je trouve qu'il y a une concomitance, il y a quelque chose de...
C'est une alliance, de toute façon, la responsabilité.
Mais c'est pour ça que j'ai pensé.
Mais c'est une alliance.
Oui. C'est pour ça que...
Responsabilité, c'est substantiellement une alliance.
Oui, c'est ça.
Et la responsabilité n'a rien de christocentrique.
Non, c'est ça. Voilà.
Sauf dans son quatrième mode. Ce que nous venons de voir à l'instant pendant 20 minutes, son quatrième mode, oui. Vous comprenez? Comprenez maintenant?
Oui.
Oui.
Ça.
Alors voilà, ça c'est un truc qui est qu'il faut absolument. Je sais pas, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça.
Mais vous m'avez demandé d'écrire sur la responsabilité, vous savez ce que vous voulez.
ouvert tant que vous sortiez un autre bouquin, et en ce moment, moi, je passe à autre chose. Je le fais pas, si vous voulez. Faut savoir.
Non, nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne parlons pas de la même chose. Il faut expliquer, faire une espèce de... Après le Prométhée, machin truc là. Comment est-ce que vous appelez ça, Prométhée scientifique?
Non, la science prométhéenne.
La science prométhéenne. Voilà.
Vous voulez que je fasse une synthèse de...
Non, pas une synthèse.
Expliquer.
Il faut faire un nouveau banquet.
D'accord.
Un banquet sur responsabilité expérimentée en la transfiguration du corps originel, de la signification responsable du corps et de la transactuation naturelle responsable dans le monde nouveau de l'image et la conception accomplie dans la surréserve glorieuse.
Oui, mais alors pour ça, comme c'est quand même un domaine très spécifique, très, ouais, très costaud, moi je veux bien le faire, mais il faudrait que vous me traciez un schéma.
Ben, tous les schémas sont déjà tracés, il n'y a pas de problème, regardez, c'est ce qu'on vient de dire pendant 20 minutes, c'est ça le schéma.
Bon, il faudra que je le transcrive, il faut que je me le fasse visuel, il faut que je me le mette sur papier. Voilà, que je fasse un schéma pour qu'il y ait un guide de rédaction.
Ah oui, vous avez un guide de rédaction dans Responsabilité 94, dans Responsabilité 2007, et puis dans ce qu'on raconte. Dans ce qu'on raconte, vous-même, vous étiez là, et vous avez dit voilà, vous avez terminé le dialogue en disant voilà, je voudrais faire un hommage tout particulier à Jean-Paul II parce que il a apporté, voilà, c'est ça, vous pouvez transcrire vos tableaux là, ça, hein, c'est que 5 phrases que vous avez dites là 5 phrases, en plus ce sera béni de quelques larmes, hein. Bon, oui, mais voilà, c'est ça, il faut que ça puisse être buvable, hein. Sauf par les Anglais, parce que les Anglais ne peuvent pas traduire ça. C'est impossible. Pour un Anglais, c'est impossible. Il y a 6 siècles d'obstruction. C'est impossible. On ne peut pas.
Je vais le faire, mais je vais prendre mon temps. Je ne vais pas être sous la presse.
C'est ça l'urgence. Il faut que les gens. Regardez, là, c'est la première fois que vous m'entendez, grosso modo. Hein, c'est ça. Hein. Moi aussi. Hein. Vous, on m'avait déjà entendu une fois ou l'autre. Mais on a envie d'en savoir plus, non? On n'a pas envie d'en savoir plus? Non, vous trouvez que c'est pas très intéressant? Pas envie d'en savoir plus, c'est pas?
C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on vous avait entendu.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire par là, c'est pour lui que je dis ça. Il faut faire donc une espèce de banquet pour que les gens aient envie d'en savoir plus.
Il entend par banquet, il ne veut pas manger? Mais c'est un dialogue selon le mode du banquet de bâton.
Ouais. Il fait parler
avec les... la science.
Il fait parler les gens. Il dit oui, mais attendez, il y a ça aussi. Ah oui, mais. Ah oui, c'est ça peut être hyper. C'est hyper. Si vous faites un truc hyper génial là-dessus sous forme de banquet, je me dis mais t'emmerdes, alors j'ai pas envie de me coltiner les 5000 pages de Carol Wojtyla, hein. En langage de phénoménologie pratique, hein, avec les éléments phénoménologiques, le critère oblique, le critère du don, etc. mes parents arrivent à Gare, tu vois, un jour, mes parents avec moi, ils arrivent à Gare, ils voient Monseigneur Segui, c'est lui qui m'avait ordonné prêtre à l'époque. Alors, il dit, ah, allez donc, Monseigneur, oui. Alors, au bout d'heure, il nous reçoit, tout ça, bon, dans son jardin épiscopal, à Gap. Ça devait être, je ne sais pas quelle année, ça devait être, c'était trop drôle. C'était en... Je crois que c'était en 88, 87 peut-être. J'essaie de réfléchir. 86. Alors, on pose à Mgr Raymond Segui, c'était le curé, c'est vrai que le château, votre évêque, il était connu dans toute la région, dans l'Aveyron, c'était le curé de Sévrac, le château. Et le pape l'a mis évêque de Gap.
quand il m'a ordonné prêtre, il m'a dit je vous ordonne prêtre. Il était avec sa crosse. Il était resté l'ancien curé de Sévrac, le château.
Ah, c'est comme ça que vous courez.
Il y avait une estrade. Il m'a dit je vous ordonne prêtre. Il y avait le père Marido. Il y avait le père Emmanuel.
Non, 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 je sais pas si ce serait bien quand même celui-là, parce qu'il est un peu. On sait pas trop ce qui va devenir après, on pourra pas le maîtriser celui-là.
Oui, oui, ça c'est certain, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vous ordonne, prêtre, c'est pour que vous disiez au peuple de Dieu qu'il y a des commandements. Bang ! Avec sa crosse. Bang !
Tout le monde a fait comme ça.
Ah, ah, ah.
Alors, c'était trop drôle. Je vais te mettre là.
Bon, alors. Ah non, elle n'est pas pétée.
Non. Oh.
Je suis
écarté là.
Alors, il y a
j'ai rien vu arriver, moi. Mais mettez-vous dans ce fauteuil.
Non, mais ça va, restez assis.
Bon, mais au niveau, ça va, vous n'êtes pas fait mal quand même.
Non, hein. Mais non.
J'ai pas vu, j'ai rien vu venir.
Et avec sa crosse, tout le monde. Et alors, le père Marito, le père Emmanuel qui dit
mais enfin, c'est un arbitre. Il dit ça au peuple de Dieu. On va pouvoir le tenir.
Mathieu, le père Marito lui fait on va s'arranger.
Non, mais il y a des commandements.
Non, c'est bon.
Non, père, allez.
Quoi? C'est celle-là, je la pète, celle-là.
Non, mais celle-là, elle est quatre pieds qui sont bien à plat. Hein.
Pourquoi alors, celle-là
ça, oui, non, ça, c'est des trucs en plastique. Ça est cassé, mais dans l'autre.
Bon, non, mais écoutez, ça va pas exagérer. Non. Je vais pas bondir dessus, vous me cassez les pieds. Ne me cassez pas les pieds.
Bon.
Ne me cassez pas les pieds.
Ne
me cassez pas les pieds.
Bon, alors, d'accord, continuez.
Oh là là. Et alors, donc, on va voir le. C'est qui ? Il a dit ah. C'est qui vous avez peut-être. Vous avez lu la dernière encyclique du Saint-Père, le pape Jean-Paul II, là. Là, mais vraiment extraordinaire. Alors, il répond à mes parents. Mais vous croyez quoi? On peut pas le lire. Ils nous ont produit, il faudrait qu'on y passe 10 heures par jour. Et on n'aurait pas fini de lire tout ce qu'il a écrit. Alors écoutez, je les ai pas lus. Moi, j'ai des charges pastorales. Tous ces évêques, ces pasteurs, ils n'ont pas lu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais même entendu parler. Et alors, s'ils commencent à rentrer dans la responsabilité expérimentale spensale, ça commence à produire à l'intérieur du corps le changement, et ce qui est mauvais ressort. Stop. Je m'occupais de l'Eucharistie, de la confession et des Jézabel de la paroisse. C'est mieux. Si bien qu'il n'y a aucun danger, aucun prêtre qui a vu.
Oui, il faut le faire.
Et aucun, ça part. Pas le temps. Et puis surtout, pas le temps, pas la force. Pas la force. Mais si tu es jumeau. Ça coule tout seul. Non, puisque la moitié du chemin est parcouru, déjà. Dans l'expérience intérieure de la transfiguration sublime du corps, hein, tu vois, de la liberté parfaite que Dieu crée quand tu fais oraison, c'est hyper facile. Donc il faut faire un banquet.
D'accord.
de manière à ce que les un problème de manière à ce que sur la sponsalité il y a un désir de rentrer dans la volonté éternelle créatrice paternelle de Dieu, dans la signification sponsale de l'amour, où le corps participe à l'admirable exercice du mariage spirituel. Sinon, comment tu passeras? Comment feras-tu pour passer de la cinquième à la sixième demeure? Sixième demeure, c'est quand l'Antéchrist disparaît d'un seul coup. D'un seul coup. En l'espace de quelques minutes, disparition de l'Antéchrist. Il n'y aura plus jamais un seul Antéchrist sur la surface de la Terre jusqu'à la fin du monde. Comment tu fais pour passer de la cinquième à la sixième demeure? S'il n'y a pas, s'il y a intégration de la signification sponsale de ton corps, je les ai lus. C'est ceux qui ont dit oui, c'est ceux qui sont d'accord.
Pourquoi?
Dans le mariage spirituel surnaturel de la septième demeure. Ces fameux 19 ans. C'est ça la sainteté de la France. C'est là où Dieu attend la France. La royauté dit ça. Il n'y a qu'une seule sainteté. C'est celle du roi, mais il faut bien qu'il y en ait un qui l'ait anticipé. Hein? Un peu comme Joseph a anticipé la grâce surnaturelle chrétienne. Du coup, il y a eu une immaculée conception, puis dans leur mariage, l'incarnation du Christ.
Pourquoi la fin du monde?
Pourquoi la fin du monde?
La fin du monde?
Oui.
Jusqu'à la fin du monde. Pourquoi le monde est irrité si le monde est éternel?
Non, il est
éternel.
Comment ça?
Bah,
la fin du monde.
Si c'est la fin du monde, il n'y aura plus d'or sur terre. Comment il faut l'interpréter?
Mais ça ne s'interprète pas du tout.
Tout ce qui est créé est dans le temps. Tout ce qui est dans le temps est voué à une fin en soi.
Le monde est limité.
Le monde est dans le temps. Tout ce qui est créé.
Il y a un commencement.
Oui, ça, je comprends.
Et il y a une fin.
Bon, ça se fait à ma petite compréhension de génération en génération.
Non. Il y a une fin. Il y a un début déterminant et il y aura une fin déterminante.
Il y a un commencement. Il y a un moment où c'est le premier instant du temps.
Tout ce qui est quantifiable.
Et il y aura un autre où il y aura l'oméga du temps. Ce sera la dernière seconde. Il n'y en aura plus après.
Voilà.
Et donc, il n'y aura plus de Dieu non plus ?
Si.
Pardon ?
Il n'y aura plus de Dieu non plus ?
Mais si, mais tout sera transformé.
Mais Dieu n'a rien à voir avec le monde.
La fin du monde, c'est la fin des temps. C'est
non,
la
mais
fin
non.
Des temps. La fin des temps,
la fin des temps. Non. La fin des temps.
Vous n'avez jamais dit votre credo? Je crois au Saint-Esprit.
Oui,
à la Sainte Église catholique. À la communion des saints. À la rémission des péchés. À la résurrection de la chair. À la vie éternelle, et comme vous prenez le catéchisme, à la résurrection de la chair, tous les corps, sans aucune exception, ressusciteront. Le jugement dernier aura lieu, et toute matière créée dans le temps et dans notre univers sera glorifiée, emportée dans le ciel de la résurrection, et même dans l'au-delà. Avec tous les corps, et ceux des corps ressuscités qui seront réprouvés, descendons dans l'Aquilon avec les dans le Tartare. Bon, très bien.
Mais
les uns ressusciteront pour la vie. Et la création tout entière, l'univers, les galaxies, tous les plans, tout ça, seront entièrement glorifiés et emportés dans le ciel de la résurrection en dehors du temps.
Voilà.
En dehors du temps. D'accord.
Mais ils changeront de substance. Mais tout ce qui est
quantifiable,
mesurable...
Ils changeront de mode. Ils ne changeront pas de substance. Ce sera toujours la même substance. Mais ils changeront de mode. D'accord. Ils passeront d'un mode temporel à un mode glorieux.
Le corps glorieux du Christ, il a changé de...
Non, il n'a pas changé de substance, il a changé de mode. Le corps... Justement, ça tombe très mal pour le corps du Christ, tout à fait spécial. Le corps du Christ, il a toujours été immaculé.
Oui, oui, c'est bien.
Donc, non, vous pouvez dire à la rigueur, pour l'Assomption de Marie, elle est passée de la création nouvelle de son corps au-delà de l'Assomption en la royauté qui dépasse le monde du ciel de la résurrection. Hein. Voilà, qui fait sa sponsalité avec le paraclet. Hein, d'accord.
Mais comme Noé.
Noé, Noé n'est pas mort. Noé est mort, je veux dire. Noé, mort.
Noé n'est pas mort.
Noé n'est pas mort. C'est Noé est mort.
Bien sûr, Noé est mort.
Noé est mort. Non, je confondais avec l'autre.
Saint-Joseph.
Avec
Saint-Joseph.
Non.
Enoch.
Enoch et Élie.
Voilà. Ah, oui, mais Élie.
Voilà, c'est ça. Mais...
Élie n'est pas encore mort.
Saint-Joseph.
Saint-Jean n'est pas mort.
Saint-Jean, l'évangéliste, non.
Si, Saint-Jean est mort, mais enfin, il est rentré en dormition, mais il a été mis en réserve.
Vous croyez qu'il est mort, quand même?
Il a eu sa dormition, quand même.
Et Enoch n'est pas mort.
Enoch n'est pas encore mort.
Et Saint-Joseph?
Saint-Joseph, ça fait qu'il est ressuscité d'entre les morts.
Il est encore glorifié.
Oui, oui.
Bah, il est mort 3 ans et demi avant Jésus.
Oui.
1290 jours avant Jésus. Oui. Saint Joseph est mort.
Et, mais son, mais Jésus l'a, on, l'a, il a subi l'ascension. Voilà.
Non, il est ressuscité en même temps que Jésus.
Mais
l'on peut le
hein?
Il aura un corps glorifié.
Bah, évidemment, il est ressuscité avec un corps glorieux, bien sûr. Ah, Marie, c'est beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, 22 ans après.
J'ai toute une discussion là-dessus dans mes côtés sur mon ordinateur, le père à Jérusalem, non pas Nazareth. On a visité le lieu de l'auteur.
Le tombeau du juste.
Le tombeau du juste, je pensais. Voilà. Toute une discussion avec la religieuse qui, elle, avait étudié aussi. Oh, qui était ravie de trouver enfin un prêtre qui était d'accord avec elle. C'est très beau. Hein.
Mais c'est l'école française de spiritualité qui a quand même qui a commencé à poser les bases de, pour étudier Saint-Joseph, c'est ça hein. Monsieur Ollier et.
Oui, il y a eu beaucoup de choses avec Saint-Vincent de Paul.
Voilà, c'est ça qui ont composé
son,
les...
Son
c'est les Joseph. Premiers à avoir réfléchi sur Saint-Joseph.
Oh, oui, si on veut, beaucoup ont réfléchi, Saint-Joseph, réfléchi.
C'est l'école française de
réfléchir. La géopologie, je veux dire, ça a beaucoup...
Il n'y a pas d'autres écrits avant, il n'y a pas d'autres réflexions précises.
Un des sommets, c'est M. Ollier.
C'est voilà, sûr, c'est ça, hein. C'est ça. Non, c'est l'école française.
C'est le premier sommet, disons. Le premier sommet, c'est M. Ruffet, ça me semble pas.
D'accord. Vous voyez, ça correspond à, la, à l'apparition de... Je crois que c'est ça, c'est... Je vais t'en prendre ton prix. C'est de Saint-Joseph à Lignac aussi.
Donc, entre Marie et Joseph, il y a un mariage. Pour revenir donc à l'Immaculée Conception, donc le mode de conception, donc entre Marie et Joseph, il y a un mariage. Saint Thomas d'Aquin dit... Il s'agit là du présence dans l'histoire de la création, de la maxima amicitia sponsalita. C'est là l'amitié, la sponsalité maximum. Maxima, c'est le mariage le maximum. C'est la sponsalité maximum. La sponsalité maximum. Ton mari Joseph. C'est extraordinaire. Voilà. Hein? Personne ne peut égaler l'unité de chair sainte, immaculée, incarnée en Dieu d'un mariage. Personne ne pourra aller au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé entre, dans le mariage de Marie et Joseph? Les deux en une seule chair. Voilà. Et évidemment que du coup, il y a en Marie, dans l'au-delà de l'unité des deux, où elle vit en permanence de l'au-delà de l'unité des deux, elle est presque au bout de quelques mois de mariage, quelques mois de mariage. Voilà, il suffit de regarder dans la Torah les préceptes, les 613 préceptes, pour savoir combien de mois. Ces torrents de millions de cellules transfigurées responsables qui sont en elle, qui viennent pas d'elle, qui viennent pas de Joseph, qui viennent de l'émanation de l'unité des deux. Et Saint-Père a dit, voilà ce que je suis appris. C'est sûr que n'importe qui comprend que Jésus, c'est pas une gonzesse. Voilà, X ou XY. Donc il a bien appris quelque chose. Et sa père dit, voilà, il a pris un mari qui appartenait à son unité spontanée avec Joseph. Voilà ce qu'il a assumé pour se créer un corps. C'est la maxima amicitia sponsalita, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il est... C'est un juif, hein. Pas oublier, la famille d'Aquin, c'est une famille juive. Pardon ?
Non, tu confonds avec Saint Augustin.
Ah.
Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de grâce, hein, liquéfiante de l'intellect agent en lui qui fait que ça circule au centuple. L'intellect agent, l'intellect possible et sa vie contemplative. Monseigneur Segui, lui, il va à la vitesse du curé de Sévrac le château. C'est pas la même vitesse. À peine.
Il vous a quand même bien soutenu, non?
Oui. Comme ça, un jour, je vois dans mon ermitage à Montmorin, je suis là tranquille tout seul. D'un seul coup, j'entends une porte, quelqu'un qui défonce la porte. C'est lui qui rentrait par surprise pour voir ce que je faisais, pour vérifier. Il dit, attends, je vais ordonner qui, hein, je vais vérifier par surprise. Il rentre. Je me lève, j'étais dans l'oratoire. On priait dans l'oratoire. Oh mon Dieu, Monseigneur, merci beaucoup, mais il ne fallait pas. Il dit, bon, il dit, c'est là que vous êtes. Hein. Il dit, oui, quelle surprise, qu'est-ce que je peux vous offrir? Je suis juste de l'eau. Il me dit, mais où est-ce que vous dormez, vous, ici? Je dis, je dors dans l'armoire. Il dit, comment ça, vous dormez dans l'armoire? Il n'y a que ça, la place. Hein. Il dit, bah oui, je dors dans l'armoire, comme ça me permet de dormir un peu moins longtemps. Il m'a dit, mais où est votre...
Où est votre
lit? Il est reparti écœuré, il a dit, bah ça va. C'est des fous ici, il n'y a que les ordonnées, et puis on s'en... Et puis on verra bien après. Vous voyez voir les uliberlus qu'il y avait chez nous. Où est-ce que je me rappelle toujours? Mais il ne m'avait pas surpris en train de faire du yoga, ou je sais pas quoi, ou à poil comme ça, sur la tête, ou autre. Pour faire la Kundalini ou je sais pas quoi, la Tandava. Il dit, mais où est-ce qu'il est entre lui là? Il est là. Il dit, comment ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, je me rappellerai toujours. Où est-ce qu'il est votre lit là? Où est-ce que vous dormez? Oh, qu'est-ce que ça m'a fait rire.
Mais il vous a appelé de son propre chef ou l'un d'entre de vos supérieurs l'a vous a proposé à l'ordination? Parce que normalement c'est comme ça que ça se passe, non?
Oui, bon, on m'a donné la vie en 98. Bon. C'est Père Emmanuel qui m'a mis une vie, puis après j'ai fait des études, c'est canoniquement intégré à l'Hérens, puis de l'Hérens on a été intégré en congrégation de Tigris, Saint-Jean, et puis après tard, voilà, donc c'est un processus. Et puis on a demandé à Seki, celui qui m'ordonne, puisque j'étais là.
Il aurait mieux valu que vous restiez incardiné à l'Hérens plutôt que dans la croisade du Saint-Jean.
Écoutez, c'est Dieu qui décide, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est personne d'autre. C'est pour Dieu. Ça se passe très bien.
Les frères de Saint-Jean, même quand ils sont déjà ils ont fait leur vœu perpétuel, ils ne savent même pas s'ils sont appelés au sacerdoce. Ils attendent le bon vouloir de la décision.
Oui, mais je comprends. Non. Mais non, mais je pensais à la crise actuelle, quoi, à ce qui se passe maintenant.
Non, c'est très bien. C'est très bien. Hein. Tout ça pour dire comment c'est Segui avec mes parents, on va le voir. Est-ce que vous avez lu le truc de Monseigneur Jean-Paul II, là? Formidable, quand même, hein, c'est un déceptif, là. Est-ce qu'il avait fait rédempteur au ministre, puis la suivante, là. Est-ce que vous avez lu le truc,
Pendant la vérité.
Mais enfin, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est juste impossible, là. Si tu y passais 8 heures, hein, tu n'as pas fini le premier document qui en a déjà fait 3 heures. Et on a une... On a une activité apostolique, on a quelque chose à faire. Voilà, donc la spontanéité, quand je lui envoie un truc par internet, là, j'ai envoyé un truc par internet il y a 3 ans, un petit truc, un petit PDF, voilà, sur le clonage, en disant, voilà, pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le clonage. Il m'a envoyé, une semaine après, il m'envoie un mail en disant « Arrêtez de me faire passer vos encycliques sur le clonage interminable. » Ah, on envoie des lettres aux évêques, ça va être tout ça, poubelle.
Oui, c'est
ce
que
j'essaie
de
faire
pour moi.
Mais il n'est plus en charge,
il est non, il est émérite, il est ermite maintenant.
Il est ermite
hein? Ermite en Aveyron, oui. Voilà, et donc près de Baracoville, entre Baracoville et Rodez.
Oh, c'est un saint homme, quand
il...
Ah,
il y a beaucoup d'ermites. C'est une question qu'on peut poser.
Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, mais je
non,
suis...
Non,
en gros, gros 300-400 en France. En gros.
On pourrait penser
de
moi, parce que c'est tellement spécial.
En gros. Comptant les femmes et les hommes.
Je crois que il y a une reprise du mouvement hérémitique sans, dans les.
Mais c'est de manière diffuse, par exemple.
Fin des années 60. Ça a commencé.
Dans la région de Cotignac, c'est en rayon 30 km, on est 5. De, pas de Cotignac, de la Chestie, je veux dire. Donc, la question, on est 5.
Mais c'est de votre propre chef, je veux dire, c'est vous qui
décidez. Ah non, c'est Dieu.
Oui.
Jamais quelqu'un va dire je décide d'être ermite. Hein.
Non.
N'existe pas. Si Dieu ne t'oblige pas, tu ne peux pas. Tu vas marcher en arrière. Hein. Et en reculant. Hein. Et, bien sûr.
Mais vous avez un supérieur ou vous restez dépendant de votre congrégation? Vous avez un supérieur, un référent des ermites?
Il y avait, mais on a supprimé ça. J'ai expliqué ça sur un hommage au Père Emmanuel. Je vous ai expliqué ça. Dans votre. Vidéo sur Père Emmanuel, hommage Père Emmanuel, j'ai expliqué tout ça très bien, puisque vous m'aviez très bien posé la question.
Non, mais il n'y a pas un représentant des ermites de France
que là, vous... Ah non. Dans chaque ermite, normalement, il y a effectivement un droit canon. Chaque ermite. Dépend directement de son évêque, de l'évêque de son diocèse. Et il fait ses engagements ou sa consécration dans les mains de l'évêque et sous son assentiment. Et il y a 4 conditions, je crois, canoniques. Voilà. Mais nous, c'était pas le cas. Nous, on était un groupe d'ermites avec le Père Emmanuel. Donc, c'était. C'était un petit peu différent, quoi. C'était une lore. Voilà. Donc, tout ça pour revenir à l'Immaculée Conception. Il y a quelque chose de très particulier, donc, entre... Marie et Joseph, et donc quand le pape a fait tout cet enseignement sur la responsabilité, puis ensuite son encyclique sur Redemptor Custos, sur Saint Joseph, qui est la dernière encyclique qui a été faite par un successeur de Pierre à propos de Saint Joseph, c'est là qu'il dit ça. C'est là qu'il dit que le Verbe de Dieu, qui est féminin dans la Très Sainte Trinité, le Verbe de Dieu, c'est l'épousé. Hein. C'est ce qu'il a expliqué pendant 7 ans. C'est dans la Très Sainte Trinité, l'épousé, c'est la deuxième personne. Une spontanéité à l'intérieur de Dieu. Avant la création du monde, l'épousé vient assumer une nature humaine masculine. Pourquoi ? Parce que l'incarnation est un mariage entre Dieu et l'humanité. Donc il y a la signification sponsale masculine, la signification sponsale. La signification sponsale agréée. C'est donc un mariage, et pour ça, ça ne pouvait se faire que dans l'émanation, dans le cellule staminal parfaite. du nid du ciel de la résurrection en Marie-Joseph, puisqu'ils ont produit le nid du ciel de la résurrection dans l'au-delà de la réalité spontanée, surnaturelle, transactuée. Le Verbe ne peut s'incarner que par la cause finale, donc l'assomption de la Jérusalem céleste termina de l'Église tout entière pour venir s'incarner. Ce qui est facile à comprendre.
C'est bon quand même. Ça arrive,
c'est bon. Tant pis, on ne comprend rien. Et après, on est très étonné de voir qu'en fait, on a ciblé. Non, en fait. Tiens, vous savez ça.
C'est ça qui est fort, donc faire une espèce de petit banquet, quoi. Platon, enfin bon, un petit dialogue en disant, mais dis donc,
oui, j'ai compris.
C'est sympa sur la spontanéité, en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis, et à force de faire venir les mots révélés par le Saint-Père, mis en place par le Saint-Père. Voilà, toc, 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 voilà, plus personne ne dira couple.
Oui, c'est ça.
Plus personne, rien, couple disparu de circulation, de vocabulaire.
Oui, ah oui, ça a été incroyable, ça. Ah, oui, oui, non, non, non.
Est-ce qu'on a dit le mot?
Hein?
Oui, mais non, pas dit le mot, je me souviens de la vidéo.
Ah oui, mais c'était terrible. Parce qu'en plus, il n'a pas arrêté de me chercher. Là. Oui, oui, bien sûr, mais c'est parce qu'en plus, bon, voilà. Bon, enfin, bref, non, non pas là-dessus. Non, ne revenons pas sur le fait que j'ai répété le beaucoup, ne revenons pas sur les conditions. Bon, on va un petit peu chercher. Alors, le...
Justement, ça nous est resté.
C'est grâce à ça que du coup...
Est-ce que ça nous a interpellé?
Merci.
Je l'ai repris au cours de la discussion avec des amis. J'ai repris cette histoire de couple et j'aurais donné votre explication.
Vous savez quel jour il a été ordonné?
Non.
Un 13 septembre. Fête de Saint-Jean Chrysostome, bouche d'or.
Oui, c'est ça.
C'est sûrement pas
un non, non, j'étais coordonné aux premières vêpres de la croix clerfuse.
Première
vêpre de la croix clerfuse.
Le 13 septembre.
Première vêpre du 14 septembre 1986. Voilà, donc, c'est la croix clerfuse.
Oui, Jean-Christophe qui a dû mettre un peu de truc là-dedans. Les
mimis sont
mis là-dedans. Il a mangé une fête, c'est comme une chose.
Jean-Christophe, non, non, non.
La mort de Louis XVI, c'est con, en fait.
La mort de Louis XVI, le 21 janvier.
1893.
Et ta sœur? 1793. Là, t'es sorti tout seul, hein.
Oui, ça fait quand même un siècle de différence.
Désolé, mais là, tu m'as donné une occasion de... Hein, bon, voilà.
Marie-Antoinette, si c'est
ça. Appuie, Catherine, tu peux appuyer sur le record. Le truc où c'est marqué record.
Marie-Antoinette, c'est autour.
C'est un emprunt, pas tout à fait. Ça a été terrible, Marie-Antoinette. Elle a eu des humiliations épouvantables. Ils ont vraiment cherché.
Marguerite Marie, c'est autour.
Ils ont cherché à atteindre sa maternité, quoi. Ils ont sali la maternité de la reine. Ça a été terrible. Ils sont même.
Oui, mais enfin, quand le Seigneur a demandé à Marguerite Marie au Sacré-Cœur, hein, que le royaume de France soit consacré, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu Saint-Claude de la Colombière. Et puis, il a fallu voir si ça pouvait être transmis au roi. Je crois à 9, il a fallu 3 ans, je crois, donc c'est 1692.
Mais c'est le confesseur.
Et le roi
Louis XIV. Non, c'est le roi.
J'ai déjà consacré, en arrivant sur le trône de France, mon royaume à Saint-Joseph. Ça suffit, c'est bien. Que Saint Joseph, lui, fasse la consécration au Sacré-Cœur. Et 1692 plus 333, ça fait 2015. Et la décapitation de Louis XIII, 21 janvier 1793 plus 222, ça fait 2015. Alors voilà. Et 2015, septembre, c'est la Hanouka, la fameuse Hanouka. Et puis en plus, c'est une Hanouka qui n'arrive que tous les 150 et quelques années, cette année-là. Ouais. Et oui, très bien. Et ça, celle-là, elle arrive par rapport au Fikushi Meshome. Mais là, c'est impressionnant. Hein, hein, parce que tu as mars 2005. Vous qui êtes une espèce de machine à calculer, je prends un stylo, mais tu arrives au septembre 2015. Hein, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, 7 ans, c'est facile, 7 ans plus 2015, ça fait 2012, plus 3 ans et demi, c'est ça. C'est ça, donc c'est ça. Donc c'est le troisième. C'est le terme de la troisième échéance de Saint Gabriel, l'ange Gabriel, le prophète Daniel. C'est septembre 2015, là.
Alors, ce qui est
donc,
curieux,
t'as trois échéances qui se terminent, tac. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. D'ailleurs, j'en parle dans les trucs sur le secret de Fatima. Tac. Et là, on rebondit ensuite de septembre 2015 à 2017. Enfin, non, c'est impressionnant.
Il y a ces affaires de Flafabius qui, reprenant une confidence à propos de l'exorcisme de Rome, qui a été repris par l'exorcisme de Paris, et qui dit à la Chambre des députés américains, il va se passer dans telle période, dans cette année, il va se passer un événement cosmique de nature importante. Alors ils se sont foutus de lui, ils ont dit, vous avez tort de vous foutre de moi, parce qu'il pourrait y avoir des morts, c'est vraiment très grave. Et là, ils ont changé.
Non, mais ça, il a dit ça à la sortie avec la Maison Blanche, avec la...
Non, non, à la Chambre des députés.
Kerry, et après à son retour en France à la Chambre des députés à Paris.
Attends.
Qui c'est qui a dit ça?
Laurent Fabius.
Le ministre des Affaires étrangères.
L'empoisonneur national.
Ça, c'est autre chose, parce que bon.
C'est dans les prophéties juives actuellement.
Non, il a.
Oui, mais il y a aussi les échanges juifs qui annoncent que ce serait. Voilà, oui, tout à fait. Il y a aussi, c'est encore autre chose, ça, oui.
Qu'est-ce que c'est que la Nicole?
C'est une fête. Je me rappelle plus exactement. C'est une fête d'annonce de la fin. C'est une fête juive.
Là actuellement sur le net, il y a un déchaînement de la part d'un tout un courant rabbinique où on dit que le Messie ça peut pas être le Christ. Alors ils reprennent toutes les théories sous forme variée sur un messie politique, sur un messie impérial, sur un messie...
Mais ils ont toujours fait ça.
Ils ont toujours espéré, ben oui.
Mais ils ont toujours fait comme ça. Ils ont toujours personnalisé, identifié. Ils ont toujours fait comme ça. Depuis la troisième Kabbalah, ils n'arrêtent pas de faire comme ça.
Sauf
c'est pour ça qu'on prend autorité sur les juifs la nuit, avec le langage que vous avez vu cette nuit. Hein.
Sauf un courant qui est séfarade, je crois, ils se réunissent du côté de l'Ukraine, là par là, régulièrement, et ce sont des juifs très religieux qui dénoncent, d'ailleurs ils ne sont pas d'accord avec l'État juif.
Ouais, c'est vrai.
Et eux sont beaucoup plus... eux, ils pensent pas du tout à un messie politique. Ils l'attendent, mais ils passent pas. Ils sont beaucoup plus proches de la révélation mosaïque que les déviances et bioniques.
Parce qu'il a une très, très grande autorité, une puissance d'autorité.
Mais là, il va y avoir... Ça va secouer. Hein. Il n'y a pas d'autre que ça va secouer. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné, ils vont la première secousse, les premières secousses, on risque de voir des gens qui sont, par exemple, agressifs, l'être davantage, des gens qui sont clivés, être peut-être aussi davantage clivés. Non, les premières. Ben, moi, je sais pas, mais quand on voit les réactions et tout...
Ça va bien se passer.
Comment ?
Ils font un peu plus violent.
Oui, je pense qu'à un moment donné,
quoi. Ils vont vivre en 36.
Ben, quand tu... On, il va, à moins qu'il y ait une grâce particulière et qu'on évite le chien dans l'église catholique, mais je vois mal les ceux qui sont enfermés.
Mais c'est pas comme ça que ces choses vont se faire. Il faut faire autrement, quoi. Il y a la sainteté du grand saint d'ouverture des temps, n'oubliez pas ça quand même.
Oui, d'accord.
C'est par là que ça va se passer, c'est pas ailleurs. Il y a ceux qui sont surpris, ceux qui sont pris.
Oui, c'est ça. Oui.
Oui,
oui bien sûr.
Voilà, donc il vaut mieux qu'on se laisse prendre.
Oui, oui, oui. Avant, oui, oui.
Vois, voilà.
Non, il vaut mieux se laisser prendre.
C'est pas vue humaine, vue sociologique, vue messianique, vue sioniste. Ça ne va avoir aucun rôle. Aucun. Ils croient, ils pensent, ils espèrent, mais ils sont promis à une impasse prodigieuse comme, comme le pharaon et ses chars.
Ça,
pareil.
Ça,
pareil. Ça va pas aboutir. Il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui. Quoi ? On ne sait pas, en fait. En vérité, on ne sait pas. On ne sait pas. Le mode spécifique, temporel, matériel, historique, etc., par lequel il doit y avoir quelque chose qui se risque, qui probablement devrait se passer en septembre, octobre de cette année, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Mais quand même, je veux dire... Alors par contre, ce déploiement ensuite, son rebondissement en 2016, ça c'est pour la fête du Mont Carmel, et la fameuse unité de l'Église apostolique, qui va se faire en rebondissement du Concile panorthodoxe sous l'impulsion, je suppose, de François, bon, et ça va rebondir peut-être au moins 40 jours après, peut-être, c'est pas que j'imagine, hein. Ça va nous ramener à nouveau en septembre. De l'an 2016 et de là ça va nous faire ça va rebondir sur ce qui pourrait être l'année de l'avertissement de 2017.
Mais ça fait 45 ans ou 50 ans qu'on attend, alors la Sainte Vierge occupe toujours parce qu'on n'est pas prêt.
Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait ce coup-ci, monsieur même. Il faut qu'il y ait l'unité de la Pâque. Il faut qu'il y ait l'unité orthodoxe, catholique, apostolique de la Pâque sur le monde entier. Voilà, donc ça, c'est pas encore fait. Donc on est sûr que c'est pas d'ici. Ça peut pas être d'ici. Ça peut pas être d'ici. L'unité de la Pâque. Donc ça peut pas être d'ici 2016. C'est déjà rien que là, on est sûr que c'est pas.
2017, Pâque orthodoxe et.
C'est le concile panorthodoxe. Il n'y a jamais eu de concile panorthodoxe sur toute la, sur notre, dans l'histoire de l'Église depuis 1250 ans. La dernière fois qu'il y a eu un concile panorthodoxe de toutes les églises autocéphales des successions apostoliques, c'était il y a 1250 ans. D'accord ? Donc c'est la première fois dans toute l'histoire de la chrétienté qu'il va y avoir un concile panorthodoxe. Ce sera le 16, extraordinaire d'ailleurs comme date, juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel, de l'an 2016. C'est là qu'ils ont prévu de faire. Voilà. Donc de là, il faut évidemment, pour moi, pour personne, ce sera une surprise, parce que je crois que le pape, il ne le cache même pas. Ils seront tous présents, sauf les catholiques. D'accord ? Bon. Voilà. Donc le pape, sûrement... Ils vont inviter comme un représentant de l'Église latine, quand même, je suppose. Évidemment. Bon. Et de là, le pape il va dire, voilà, d'accord, on s'aligne. Hein, on s'aligne.
Mais en 2017, il y a la même date, de toute façon, déjà prévue, normalement.
J'ai pas compris ta question.
En 2017, les Pâques sont déjà identiques.
Non, ce sera décidé qu'en 2016.
C'était déjà évident.
Non. Le pape a dit qu'il signerait.
J'en sais rien, je sais pas. Peut-être que par une fois tous les 12 ans, tous les machins, ça tombe pile. Par un hasard.
Je crois que ça tombe.
Un peu, ça, c'est ce que je. C'est possible. Je ne
je ne crois pas. Ça le sera, parce qu'on va le décider comme ça. De toute façon, on va le décider comme ça. De toute façon, le pape a dit, ce sera comme ça, puis c'est tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, le sacrifice de la... À partir de ce moment-là, pour la première fois, depuis ça, depuis la transformation du calendrier grégorien, la Pâque, ça va se célébrer sur toute la Terre, à la même date, le sacrifice eucharistique en une seule hypostase, à la baptême de Jésus dans l'un, du sacrifice divin, immaculé, parfait, universel, sur toute la surface de la Terre. Et donc, il y aura une fécondité possible pour chaque prêtre, pour obtenir quelque chose qui est sa fécondité dans le nid et le Saint des Saints de l'un. Et donc le Saint de la sainteté de l'ouverture des temps, lui, il pourra apporter cette fécondité-là et émaner de lui, faire émaner de lui, évidemment, la grâce de l'ouverture des temps. L'ouverture des temps, c'est le cinquième saut de l'Apocalypse. C'est la fameuse demi-heure. Je n'en sais rien. Il faudrait d'abord qu'il y ait l'unité apostolique demandée par Notre-Dame de Fatima pour que le Saint-Père et tous les successeurs des apôtres de toute la terre célèbrent la Pâque. Oui. Le sacrifice de la messe, unanimement dans toutes les liturgies.
Ce sera avant l'avertissement, ça ne peut pas
être. Ah, mais ça ne peut pas être après.
L'avertissement ne peut avoir lieu que si l'unité est faite au niveau de la date. Voilà.
Il ne peut que là, y avoir de
fait. Je pense que d'abord, ce avertissement, c'est pour nous réveiller. C'est le miracle qui n'aura pas. C'est le châtiment qui n'aura pas lieu.
Non, mais c'est autre chose. Là,
l'avertissement ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y aura pas une date unique pour la célébration de la Pâque.
Ah,
voilà.
C'est autre chose là.
C'est la demande de la Vierge Marie, c'est la condition.
C'est le pouvoir des clés de l'Église. Le pouvoir des clés. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce pouvoir de l'Église ne peut pas atteindre le Saint des Saints, de l'unité, de l'indivisibilité du Saint des Saints, de la paternité de Dieu dans le monde, tant qu'il n'y a pas une Église une, dans une unique Pâque, dans la transsubstantiation eucharistique universelle de l'humanité tout entière. Le pouvoir de l'Église ne peut pas atteindre cette fécondité-là dans le Saint des Saints, qui est le nid et le Saint des Saints de l'un, comme on le dit d'ailleurs dans la liturgie du mode extraordinaire. C'est dit explicitement, la liturgie du mode extraordinaire de Saint-Pierre.
Et 2015,
c'est un autre événement. C'est un autre événement dont on ne connaît pas la nature. On ne sait pas si c'est un art, on ne sait pas si c'est une connerie humaine. Moi, je penserais plutôt à une sottise humaine venant d'une expérience malheureuse. Ce qui arrive de
notre on nous parle d'un astre là actuellement.
Oui, il est. Non. Là, non. Le signe à Gérone, la dernière apparition, la Vierge Marie a dit je vais aller vous chercher votre signe. Et le signe, c'est un astre, mais c'est pas l'avertissement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Maintenant, il est possible qu'il arrive avant l'avertissement. Ceci étant. Aucune lunette astronomique le verra. Quand on le verra à l'œil nu, et personne ne l'aura annoncé. Donc la météorite qu'on voit actuellement, qui est à 85% riche en platine pure, n'est pas le signe. Voilà.
Donc on ne devrait pas le voir arriver.
Quand on le verra arriver, il sera trop tard. On le verra, mais les astronomes.
Mais ça, c'est des élucubrations temporaires.
Oui. C'est la Vierge Marie qui l'a précisé.
Non, mais la Vierge Marie.
Bon, très bien. Je sais, vous le dites, mais c'est quand même à Carabandal qu'elle l'a précisé. Et à Gérone, elle lui dit.
Carabandal,
avec
tous les prêtres concernés, je suis bien informé.
Mais
c'est lui qui a traduit le bouquin en anglais.
Mais oui, mais c'est pas pareil.
Alors, vous connaissez bien Carabandal.
Mais à Gérone, elle précise, et puis elle précise dans d'autres lieux où elle dit.
Gérone, c'est quoi?
C'est un lieu d'apparition mariale qui a. Ça a duré 3 ans, 3 ou 4 ans.
C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. T'en sors plus, hein?
Allez-y.
Si c'est pas ça, dites-le alors.
Tout est basé sur le cycle aussi, mes chemins.
D'accord.
C'est clair?
Oui.
Ah, ça, c'est l'écriture. C'est l'ange Gabriel, c'est le prophète Daniel.
D'accord.
C'est pas Jérôme, c'est pas JNSR.
Oui, non, j'ai bien compris.
Là, celui-là, Suleyma, ou Goritseva, ou je sais pas quoi.
Oui, je comprends bien. D'accord, ça tombe.
Mais non. C'est vrai, écoute, c'est pas... Si vous suivez soi-même, c'est clair, c'est net, c'est précis. 8 mars 2005, terminé. C'est clair, c'est tout, c'est très simple. Alors tu comptes 1290 jours après, plus... Voilà, et ça donne quoi, 1290 jours après? Septembre 2008, vous êtes d'accord? Et là, paf, il démarre, le collisionneur du hadron, pour rentrer dans l'univers double de la matière tachyonique. Il a fallu donc qu'on intervienne. Oui ou non?
Oui, c'est le CERN.
Donc on les a barrés là-dessus. Qui les a barrés? La mystique ou le Gérone?
Non, d'accord.
Bah celui-là? Conchita? Rien du tout. Rien du tout. Suleyma? Nogobi, non, il est mort. c'est des mystiques d'un mot. Ils ne comprennent que ce qu'ils peuvent comprendre dans leur état, machin truc.
Je ne mettais pas dingo à certaines mystiques, elles sont sincères quand même.
Je n'ai pas dit que c'était pas sincère. Est-ce que je dis que c'était sincère?
Non, souvent elles n'interprètent pas, elles disent et puis c'est tout autour qu'on t'interprète.
Oui, mais elles disent en fonction de ce qu'elles sont, en fonction de ce qu'elles perçoivent, en fonction de leur vue, en fonction de leur langage, en fonction de leur structure mentale, en fonction de leur intellect possible, en fonction du tiers qui fait la perturbation sur la compréhension. Voilà, et que vous n'avez pas accès, personne ne peut avoir accès. Personne. Donc on ne peut pas se baser là-dessus, c'est strictement impossible d'ailleurs. Voilà. Donc 1290 jours après, c'est ce qui s'est passé, c'est le collisionneur. Bon. Ben, on les a barrés. Il aurait été...
Là, il recommence.
1280.
Oui. Mais j'ai bien compris, mais je peux préciser qu'il recommence.
Mais 1290 jours plus tard, c'est-à-dire 7 ans, c'était mars... 2012. Et puis, 1290 jours après, c'est septembre 2015. Si tu le veux ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que, comme ça n'a pas marché en septembre, c'est marrant qu'il soit si précis sur les dates. Parce qu'avant le Sikutsi Meshomem du 5 mars 2005, 1290 jours avant, c'était le 11 septembre 2001. Mm-hmm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Et 1290 jours avant le 11 septembre 2001, c'était quoi en mars 198, hein? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas?
Quelle année?
1998.
Il y a eu un truc à l'ONU.
Ah, tu sais bien. Oui, c'est bien.
Colo.
Vous vous rappelez, c'est super, comète. Elle a annoncé la naissance de.
Antichrist.
Bon, remarque bien qu'en même temps, c'était en février-mars, quoi. En même temps, le pape déclare que c'est à peu près à 30 jours près, quoi. Et même 30 jours, c'est quand même dingue. Mmh. Le pape explique que le saint des saints du corps originel, où Dieu apparaît dans son sanctuaire comme père sans voile, c'est dans le génome.
C'est
à 10 ou 15 jours près, la même date que l'apparition de l'Antichrist. Et donc il y a, caché bien sûr, apparition cachée. Hein? Et puis tu redescends comme ça. Il va faire mieux que tu redescends de 1290 jours à 1290 jours. On peut s'amuser à faire des mathématiques. C'est amusant d'ailleurs. Puisque c'est quoi 1290 jours? C'est quoi 1290 jours? C'est quoi? Ça correspond à 42 mois. D'accord? Voilà. Donc 42 mois, ok. 42 mois, sauf erreur, ça fait combien Ça fait trois ans et demi. Ça fait un temps et un demi-temps. Voilà. Et donc si tu fais 2005 en 10 ans par exemple, alors ça fait 5 plus 10 plus 10 plus 10, tu recules et tu aboutis à la date au mois près où le nouvel Israël de Dieu, les évêques de France décident de donner la communion sur la main pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec le pape.
Oui, c'est ça.
Et pour faire du signe de communion un signe de division. Et donc de couler la fécondité eucharistique à l'instant et dans le lieu même de sa fécondité par la communion. 35 ans après, jour pour jour, c'est aussi mieux ce même. Mais entre ce moment-là et de 1280 jours à 1290 jours, à chaque fois, une étape. Et aucun mystique n'a dit, attention, pas un seul, pas aucun mystique, d'accord, pas un seul. Pas un seul. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas regarder l'Écriture. Et la Sainte Écriture, c'est l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, on s'en fout. Et le prophète Daniel, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a foutu de l'ange Gabriel, hein ? C'est lui qui annonce. Voilà, c'est l'ange Gabriel, le prophète Daniel. Il dit, mais le prophète Daniel, il dit, moi je veux bien être prophète, mais en même temps, je ne veux pas. Parce que tout le mystico-dingo, il y en a tellement. Je ne veux pas en faire partie. Pas compliqué. Je ne veux pas faire partie de ces dingues. Qui racontent des trucs qui finalement ne se réalisent jamais. C'est ça qu'il a dit. Alors il a dit, voilà. Je dis, bah, ok. Et il réfléchit quand même. Il a dit, Seigneur, je veux bien quand même faire ta volonté. Allez, une petite crise de conscience. Il a dit, je veux bien, à condition de savoir quand. Ne plus être prophète, mais à condition de savoir le temps. Le mystère du temps, ça, voilà. Et donc c'est là que l'ange Gabriel lui apparaît en disant, tu as été homme de prédilection, tu as été choisi pour ouvrir le mystère du temps. Et c'est grâce à lui qu'on savait l'année exacte et le jour exact de la naissance de Jésus. Et il est né ce jour-là et cette année-là. Et c'est lui qui donne la date exacte de ce que c'est mes sommets. Quand même. Qu'on peut vérifier aujourd'hui, puisque c'est passé. Et puis c'est lui qui donne ensuite, après, les échéances. Il donne bien 1290 jours. C'est repris par Saint Jean dans l'Apocalypse, avec une différence de 30 jours. Très intéressant. C'est une espèce de tampon à cause de la Sainte Famille, tu vois, différence de 30 jours. Parce que la Sainte Famille glorieuse, c'est génial. Et donc 30 jours avant le mars de 98, le Saint-Père dit, 24 février, c'est le génome qui est le sanctuaire du Saint-Dessin de la paternité créatrice de Dieu. C'est extraordinaire ce tampon. C'est inouï, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Et ça fait partie d'une de nos fiertés. Mais d'une très grande fierté du groupe... de Madame Osier. C'est que c'est grâce au groupe de Madame Osier que le pape a dit, le 24 février 98, c'est le génome... Et le lieu et l'instant de la création de l'âme spirituelle par Dieu. C'est grâce au groupe de Madame Osier. Vous ne saviez pas, hein? Parce qu'on a été là-bas, c'était en 1981. 17. En septembre. Et... on s'est fait expliquer pourquoi le pape ne parlait pas de l'animation quoi, immédiate. Pourquoi Rome n'en parlait pas, pourquoi il y avait ce refus. On s'est fait expliquer tout ça. Et on a compris que c'est parce que personne dans le monde entier ne réclamait au Saint-Père une clarification sur ce point. personne. Il y avait des piles, des centaines de milliers de lettres pour savoir si l'homosexualité c'était une maladie, si ça pouvait être accepté ou pas accepté. Il y avait des piles entières de questions demandées au Saint-Père pour une clarification sur la stérilisation en Inde, quand même, quand on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas accepter ceci, cela. Parce que le Saint-Père ne peut, n'a le droit, enfin, si je puis dire, de confirmer ses frères. Donc si personne ne lui demande rien, il ne peut pas avancer. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne lui demande pas de le faire, c'est pas l'heure. L'infaillibilité, c'est par rapport à l'heure. Et le signe que c'est l'heure, c'est que dans le monde entier, la charité des apôtres, des fidèles, lui demande de confirmer ce qu'on lui donne. Une impression qui appartient au sens de la foi. Vous comprenez ça? Donc, ayant compris ça, quand on est revenu à Montpellier, on a expliqué ça. Et du coup, de Montpellier, c'est parti, on a préparé des lettres, etc., avec le groupe de Marianne à Montpellier. Et il y a eu 7, 8 évêques de 8, 5 continents différents qui ont envoyé une lettre au Saint-Père. Et voilà, 24 février d'après, il disait, il attendait. C'est venu du groupe Marianne, Madame Ossier, avec Georges. C'était des petites gens. Hein. C'était des petites gens. Et il ne faut pas grand-chose. Faire avancer d'un pas l'Église sur un point essentiel. Essentiel. Ça avance. Et là, c'est vrai que on voit bien. C'est qu'après, donc, je sais que si mais je m'aime, il y a le collider. Hein, vous êtes d'accord, ça, le collider, c'était en tant qu'en septembre 2008. Mais comme ça n'a pas marché. Et ils ont arrêté le truc. Et ils ont repris 3 ans et demi après. Il faudrait que je vérifie la date, mais je crois que c'est ça. Ils ont repris. Et c'est là que ils ont. Je crois bien que c'est ça. Vous en rappelez, vous? Ils ont repris, vous savez, sur 738 km là. Ils ont repris et ils ont fait accélérer les particules pour, et puis ils se sont rendus compte que les neutrinos allaient plus vite que la vitesse de la lumière, donc ça veut dire que la matière existait avant la lumière du Big Bang. Donc si la lumière existe avant la lumière, ça veut dire que tous les processus, j'allais dire Big Bang, la théorie de la relativité, tout ça, tombe par terre, et que c'est le récit de la création dans la Genèse qui correspond à la réalité scientifique, c'est tout, voilà, c'est tout. Je me rappelle plus, mais je crois que...
En 2012, c'est ça, je crois.
C'est en 2012, il me semble.
Oui.
Mais déjà... En septembre, en tout cas, 2008, l'année suivante, ils ont voulu refaire. L'année suivante, donc 2009, en septembre, ils ont fait un nouvel essai, puis ça a foiré pareil. Bon, on avait fait ce qu'il fallait, hein, pour que ça aille directement au corps spirituel de Saint-Joseph. Du coup, on arrête immédiatement, ils ont arrêté, et ils nous l'ont avoué. Hein. On a eu l'aveu, hein, du directeur du CERN. On a eu l'aveu, hein. Et on a arrêté parce que ça n'allait pas dans la direction de l'univers double. Il y a eu sacrifice humain hein, dans le collider pour que ça aille vers l'univers double.
Oui, il faut bien que. Hélène.
La science, c'est tout ça fait vraiment de Satan. Et donc, papa, non, on ne revient pas là-dessus.
Non, mais si, il faut en
parler. Non
bon, d'accord.
On parle d'immaculée conception.
Oui, bon. Il faudra le préciser quand même.
Non.
Si.
Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé?
Non, il m'a coupé, parce que j'avais quelque chose à dire, mais je vais le dire quand même.
Non, il voulait revenir sur les sacrifices humains et machin.
Non, les savants qui peuvent avancer
font des sacrifices pour avoir
mais les... Oui, mais tout le monde le sait, ça, ça a toujours été bon.
Les avortements tardifs sont faits exprès, hein, parce que c'est ceux qui payent le plus cher à Satan.
Nous, on le sait tout ça. Bon. On va faire avancer les trucs, pas reculer.
Bon. Oui, oui, mais je comprends. Mais je...
C'est... Ça me rappelle toujours comment on a arrêté le collider. Ça m'a rappelé toute ma vie. Oh là là, quelle histoire. Nous étions, quoi, 5. On était là sur le site. Et alors, quand mes parents m'ont conçu, enfin, vous savez où c'était ? C'était conçu, c'était, je vais vous dire ça, c'était vraiment à peu près à l'Annonciation 1950. Quand je dis à peu près. Et c'était, j'ai honte de ne plus me rappeler la ville. J'ai honte. Non, le collider, vous avez Genève. Ouais. Et puis le collider, il fait un cercle de 32 km, comme ça.
Annecy.
Non, non. Et qui mord sur la frontière française. Hein. Et ça passe par un village, hein, en France. Mes parents passaient par là. Ils ont été dans l'hôtel. Dans l'hôtel de Bellevue, deuxième étage, chambre 47. Il y a une belle vue sur la chambre 47 avec une belle vue. Et le collider, il passe en dessous de l'hôtel. Alors attends, oh mon Dieu, mais cette vie, c'est pas possible. Et on a une très belle vue, très belle vue, très 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 belle vue sur le Mont Blanc, tout ça. Puis du midi, tout.
Puis le midi, c'est dans les Pyrénées.
Il n'y a pas de pic du midi là,
non, côté du midi, c'est les Pyrénées.
Le Mont Blanc, à côté du Mont Blanc, il y a le pic du...
Ça s'appelle midi aussi, mais je ne sais plus si c'est pic ou si... L'aiguille.
L'aiguille du midi.
Midi. Ah, oui. Il y avait bien le midi.
Oui, ouais, il me semble.
Oui, mais le pic du midi, c'est pas pareil, c'est un observatoire.
Oui, oui, mais c'est vrai.
Voilà. Et donc, ma mère se rappelle très bien. Elle a senti la fulguration à l'intérieur, 2 heures après la conception. Elle était au jour sommet. Ma mère était spéciale pour ça. Elle sentait la fulguration. Ça y est, celui-là est créé. Elle sentait la fulguration. Elle était à peu près toujours 2 heures après. Et c'était là. Alors, toute la question, c'est de savoir si c'était Bruno ou Patrick. Je sais pas, ça, on sait pas. On sait pas trop.
Bon, mais, non, on peut pas savoir, selon la tradition hébraïque,
j'étais. Ah non, mais ça, la tradition hébraïque, j'en ai rien à cirer. Moi, je regarde l'expérience pensale de la chose. Voilà, c'est l'expérience, c'est pas la tradition. Alors, donc là, c'est là. Et on a été conçu là. C'est dingue. C'est dingue. C'est, je trouve ça marrant, quoi. Je trouve ça marrant. Et donc on va là. On s'arrête là, on a pris un kawa, tous les 5 là. On a pris un kawa à l'hôtel de
Bellevue. Ah, vous êtes allé sur le lieu ?
Ah, bah, évidemment.
Ah, d'accord.
On a célébré la messe sur le collider.
Ah, d'accord.
Et avec le corps spirituel, hein. Avec le corps spirituel, hein. Avec toute la matière tachyonique du corps spirituel, ça, on y allait à fond, hein, et les 5 ont été branchés. Hein, on m'en rappellerait toujours. On m'en rappellerait toujours parce que c'est parti de tous les côtés. Quoi. C'était trop incroyable. Et puis voilà, donc on a eu la révélation, je crois, que ça va. Toute la matière produite par le collider est saisie. Est déposé dans le corps spirituel glorieux de Saint-Joseph, qui est venu nous remercier en disant « Je m'en charge maintenant, vous pouvez rentrer. » C'est fini. Alors on est rentré. Et c'est là qu'ils ont arrêté le collider le lendemain. Ils se sont rendus compte que le boson de Higgs allait dans pas la direction qu'ils voulaient. Ce qu'ils ont avoué explicitement à un des 5, 40 jours après. Et c'est quand même un truc complètement dingue, cette histoire. Donc tout ça, le mal de... c'est pour ça que je trouve que le compute a quand même un certain rôle, parce que on s'attend à quelque chose. On sait comment il fonctionne. Pour eux, c'est très important de fonctionner à une échéance particulière.
Oh, je peux vous donner une nouvelle, parce qu'on a prié pour... Vous savez quoi, on a prié pour... vous avez prié pour l'Ukraine.
Oui.
Je vais vous donner deux informations. Les Américains sont pris une déculottée, mais ils
s'attendent vraiment
à s'en sortir, parce que le gouvernement ukrainien serait en pourparler avec les Russes du Donbass pour leur accorder l'autonomie, sous certaines conditions. Donc, ça y est, c'est réglé. Et ils sont embêtés parce que, comme ils ont enclenché des brigades incontrôlables, hein, c'est devenu incontrôlable, des brigades de répression ukrainiens, polono-ukrainiens contre les Russes, tout ça, il vient de se produire un phénomène, c'est que maintenant, ils se sont aperçus que certaines brigades faisaient immédiatement référence à l'idéologie nazie. Et là, le gouvernement ukrainien, il ne sait pas comment faire pour s'en dépêtrer. Alors, il y a des démentis, voilà, ils sont coincés. Et il y a un mauvais sort qui vient de se jouer contre les États-Unis, qui voulait le contrôle de l'Asie centrale. Seulement, vu la crise économique, vu d'autres considérations à cause du Moyen-Orient, à cause du gouvernement... D'après du premier gouvernement Obama avec Hillary Clinton qui était ministre des Affaires étrangères et qui a organisé les troupes qui maintenant il faut combattre ces connards, hein. Eh bien ils ont demandé, enfin ils ont pas demandé, ils ont fait comme si ils acceptaient, mais enfin c'est un état de fait, de toute façon ils peuvent pas faire autrement. C'est la Russie maintenant qui a contrôle de tous les anciens états de l'Union de l'URSS qui sont en Asie mineure, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que les intégristes du Liban, ça va poser des problèmes pour les aqueducs et tout ça. Alors, ils sont coincés. Ils veulent en même temps maintenir les sanctions économiques. Problème. Ils perdent en Ukraine, comme ils ont perdu ailleurs. Ils sont obligés de lâcher leur présence en Asie centrale et confier ça à la Russie. Et retour de bâton, les sanctions économiques ont favorisé la remise en route de l'industrie
russe. Bien sûr.
Russe.
Ben oui, bien sûr. Bon.
Ça se retourne contre eux, quoi, à chaque fois.
Non, mais ça c'est la géopolitique, ça c'est autre chose.
Oui, c'est peut-être de la géopolitique, mais il y a des choses qui se mettent en mal. Et je vois que depuis un certain temps, les Américains sont mis en échec.
Oui, oui, oui. D'accord. Ça, on confie ça à Padre Pio. C'est Padre Pio qui les désorganise. Chaque fois qu'on lui dit, on confie ça à Padre Pio, il les désorganise. 15 jours qui suivent, tu aperçois qu'ils se bagarrent entre eux, c'est trop marrant. Marrant. C'est ça, il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a une chose personnellement moi, qui m'avait un petit peu déstabilisé, c'est ça, c'est qu'ils avaient réessayé un an après. Tiens, vas-y, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire un an après? Mais quand même, il y a eu un nouveau en 2012, donc on est revenu aux échéances habituelles. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mystico-dingo, moi aussi, quelque part, ça m'arrive. Un ermite tout seul dans sa grotte, hein, faut bien qu'il s'occupe, hein, il sait pas quoi faire, il s'embête. Donc c'est comme l'échéance de 3 ans et demi. Mais à partir de Chicoutimi, mais ce même, c'est 2005, on doit compter différemment. Et c'est sous le mode de la transverbération. Donc ça peut être que 3 ans et demi fois 3 ans et demi. Et ça aboutit à 2017. C'est sous le mode du verbe. Donc c'est 3 fois 3 ans et demi, 2 fois. Enfin, c'est 2 fois 3 ans et demi fois 3 ans et demi. T'as compris, quoi. C'est ça. Donc on aboutit à 2017. Si on vraiment veut regarder le corpus théologiquement de l'ange Gabriel au prophète Daniel, normalement, effectivement, on aboutit à 2017.
Là, il est... Oui, non, je voulais faire un moment puisque vous parliez du
cercle. C'est-à-dire que là, ici, en septembre, on est à 3 fois 3 ans et demi, d'accord ? Et si tu fais la moitié de 3 ans et demi, d'accord ? Ça fait 21 mois après. T'as abouti à 2017. Et je me dis, ça peut être... Mais toujours. Avec l'élasticité de 30 jours de Saint Jean, l'évangéliste de l'Apocalypse, avec l'élasticité. Donc si on veut s'amuser à faire des dates, moi je me suis toujours amusé à faire à trafiquer les dates, mais ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça amusant. Et c'est d'ailleurs ce qu'Aurélien de Préville, ma Mourine, me reprochait, elle me disait, ouais, à chaque fois, et ça se passe jamais. Je dis, attends, ça s'est passé à chaque fois, ma Mourine. Ça arrive jamais, ça s'est passé à chaque fois. À chaque fois, ça n'a jamais manqué. Oui, mais tu terrorises mes enfants.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Ma Maureen. Tous les 1280 jours, il y avait un truc, et je l'annonçais, moi, avant.
Oui, mais un genre de truc.
Mais je viens de vous le dire à l'instant, voilà. Je viens de faire toute la succession des trucs. Hein. Je viens de vous le raconter là, à l'instant. Là. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Donc, hein? Par exemple, la loi sur l'avortement, c'est 3 ans et demi exactement après le chikout de la communion sur la main. C'est très simple. C'est pas compliqué. Hein? Alors, tu vois, c'est ça. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, là, cette histoire de 3 ans et demi. Mais c'est forcément c'est sous le mode de la transverbération. Donc, 3 ans et demi par 3 ans et demi. Ben voilà, donc alors. Alors, il reste encore une demi, de 3 ans et demi. C'est ça. Alors, voilà, 2015 plus 21 mois. Et voilà. Alors, je sais pas, c'est à vous de me calculer. La calculette électronique, elle est là. Allez hop, calculez-moi ça vite. En septembre, septembre 2015 plus 21 mois, ça donne quoi comme date?
Septembre 2017 moins 3 mois. Août, juillet.
Ah, donc l'été 2017, pourquoi pas, ouais.
Est-ce qu'on sait où ils en sont avec les deux projets d'expérience du CERN?
Oui, ils ont lancé des trucs, mais...
Ça ne marche pas.
Non, ils sont foirés. C'est fini, c'est Saint-Joseph. Maintenant, c'est Saint-Joseph qui a la maîtrise du truc. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ce sera de la connerie.
Donc, parce qu'ils avaient un projet.
C'est pour ça que les services secrets du Mossad, ils ont dit, attends, on va faire des... On va faire parler le pape là-dessus. Ils ne sont pas contents que ça ne marche pas leur truc. C'est d'écouter le truc sur le plan de l'information par rapport au pape sur le collège.
Ça s'est retourné contre le comment?
Le but, c'est de faire la crise mondiale
pour financer. Ils ont, s'ils avaient les moyens, s'ils avaient la possibilité d'intervenir à la frontière de la matière et du monde spirituel, ils le feraient.
Je sais, je suis au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça a loupé, je crois que maintenant, ils ont quitté ce projet, ils sont en train de faire des choses d'une autre manière. Peut-être que nous ne voyons pas de manière très précise encore. Mais... Parce que le WMD,
ça n'a pas d'importance.
Il n'y arrive pas.
Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qui compte, c'est que c'est nous qui décidons.
Pour les Juifs.
C'est nous qui décidons.
Oui,
c'est nous, c'est le roi fraternel de l'univers qui décide, c'est les catholiques qui décident. Voilà, c'est les catholiques. Et ils décident, c'est le pape l'a dit, entre minuit et 3 heures, avec sa petite garde. Point barre. Voilà, c'est eux qui décident. Voilà, donc tu déroutes les roues du char du pharaon, entre minuit et 3 heures, celle de la roue du char que tu veux décider de dérouter, tu la déroutes. Tu peux dérouter la météore, tu la déroutes. Pas de problème, c'est pas un souci. Pas un souci. Tu peux dérouter les opérations financières organisées. Oui. Tu déroutes. Tu peux dérouter ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est la détermination de l'ouverture des temps pour la grâce du monde nouveau. C'est ça qui compte.
ça qui compte.
Ah. Et donc, comment on fait pour prendre autorité dans la mise en place du corps spirituel, la liberté, la fécondité et l'acte pur du corps mystique de Jésus dans ceux qui ont l'autorité dans la nuit du ciel et de la terre par la foi? C'est pas Marie qui intervient. C'est pas Saint Joseph. Ils sont dans la vision béatifique. Ils sont pas dans la foi. Donc ils n'ont plus aucun rôle direct, je veux dire. Ils passent par la médiation de ceux qui...
Par les veilleurs de la nouvelle Jérusalem. Voilà. C'est comme ça que nous nous appelons.
Voilà. Et ça, c'est ça. C'est pour ça que peut-être on fait ces petites sessions à Nîmes, ça, petit à petit, pour qu'il y ait quelques-uns qui rentrent là-dedans. Pas besoin qu'on soit 50. S'il y en a 7-8, ça suffit. 10-12. À Marie-Reine, il n'y a pas beaucoup qui étaient opérationnels, vous savez. Hein?
Comment ? Je n'ai pas entendu, là.
Il y a quelques-uns.
Il faut se souvenir de la parole de Dieu quand Abraham lui dit « Mais si tu trouves dit juste, je ne détruirai pas la ville. » Voilà. Je pense que nous, il faut que nous soyons ces justes que Dieu a besoin, qui apporte le nom.
Disons qu'on soit unis à ceux qui sont justes.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Déjà ça, c'est déjà pas mal. Oui. C'est pour ça qu'on est unis au roi. Voilà. Si on en trouve 10-12 parmi nous, qui sont unis au roi, voilà, c'est déjà ça. Ça, c'est beau, ça. Par amour, quoi. Un amour incarné, attention, hein, avec le corps spirituel, avec la maîtrise.
Oui,
être unis.
Oui, il y a une question que j'aimerais beaucoup que l'on pose à Marie, ou peut-être vous pouvez poser la question avant de vous endormir au soir. Pourquoi est-ce que Marie aime tant la France?
Ah ben c'est lié à... Bon, je vous laisse répondre.
Parce que en fait, oui, mais enfin les autres pays, ils se disent à son enfant, ils font seulement...
Bon, la France est dans la même position qu'Israël à un moment donné.
Oui.
Voilà, c'est tout. C'est
oui,
tout.
Si on
c'est...
accepte ça et que Lévi c'est Louis et Louis c'est Lévi, oui, tout ça je sais. Non. Et je me suis dit quand même, Marie parle avec tant de tendresse.
C'est à cause du roi.
C'est uniquement à cause de lui. Oui.
Il y a aussi une géométrie sacrée de la France.
Oui, ça aussi.
Et que quand on relie des villes, se reconstitue l'étoile de David.
Les murs de Jérusalem,
oui.
De l'époque du roi Salomon. La France,
oui.
C'est le parcours hexagonal parfait de toutes les murailles de Jérusalem à l'époque.
Voilà.
Il y a plein d'autres choses comme ça, mais ça c'est.
Et il faut que je redonne le nom.
C'est pas à cause de ça. Ça c'est des hasards de providence.
Il y a un bouquin qui va sortir, qui a été édité par les presses jésuite et qui va sortir, qui est un gros pavé et qui est comment s'appelle le bouquin qui va sortir de la presse jésuite?
C'est ça que je suis en train de...
Comment il s'appelle?
Je m'en souviens plus là, mais je vous le dirai.
Oui, mais Antoinette là.
Non, il faut qu'on vous donne les commandes.
J'ai un ami qui est très âgé, qui a plus de 80 ans et qui a passé beaucoup de son temps libre à étudier la géométrie sacrée et qui l'a sur la France.
La géographie sacrée de la France.
Voilà, et il a vraiment fait un bouquin qui n'a intéressé personne et qui plus est dans Bled où il est dans les Hautes-Alpes. Personne s'y est intéressé. Et aujourd'hui, par quel cheminement, je n'en sais rien. Les jésuites, l'édition des jésuites a eu ce livre en main et a décidé de le publier. Et ça devrait être publié septembre-octobre de cette année.
C'est quelque chose comme 600-800 pages.
C'est quelque chose, un travail monstre et assez impressionnant. Et
Dès que j'ai plus de renseignements, je les passe à Pierre.
Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse savoir des petits passages. Alors là, pour vous pouvez résumer.
Ah bah oui, voilà. Ça oui, de toute façon, dès qu'il est publié...
Oui, mais ça, c'est des structures, ça. Oui. Vous savez,
c'est des structures.
Non, mais ça peut aider aussi. Ça peut aider.
Je comprends.
Ça peut aider.
Mais la France n'est... Oui, non. Bien sûr, mais c'est...
C'est pas fondamental.
Ça intéresse davantage des ésotéristes que nous. Nous, on est intéressés autrement, parce que ce qu'on est intéressé, c'est la manière dont Dieu, là où Dieu nous attend, dans notre union transformante. D'accord ?
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est là. Parce que ici, là, vous perdez des temps à droite, à gauche, c'est une grosse perte de temps.
Oui, c'est vrai.
Énorme perte de temps. Alors, pourquoi est-ce que Dieu choisit ? Énorme. Parce que là, donc, dans l'horizon, c'est pas pareil.
Un autre parcours, je veux dire, c'est différent, mais on ne peut pas empêcher que des hommes...
Non, on ne les empêchera pas. Mais on ne les empêchera pas. Personne.
Bon sens,
on ne peut pas les empêcher.
Dans une démarche
de mère. Oui, on ne peut pas, je veux dire, les empêcher. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël à cause d'Abraham ?
Trop de questions. Vous n'avez pas répondu ?
Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël à cause d'Abraham ?
À cause d'Abraham.
Pourquoi Abraham ?
C'était le seul qui était capable de mener ça.
Parce que c'est le premier qui a donné son acquiescement à la foi. Il avait 70 ans. 19 ans après, il en avait 90. N'est-ce pas ? Et là, qu'est-ce qui s'est passé à 90 ans ?
Mais on vit plus longtemps.
Pardon ? Pas du tout. On peut vous acheter une Bible si vous voulez.
Oui, c'est la naissance d'Isaac. Non.
Mais.
Bah, on est un peu paumé.
Non, on est un peu paumé.
Abraham, vous avez entendu parler d'Abraham ?
Oui.
On peut vous acheter le livre de Genèse si vous voulez. Si vous...
Il y a la première alliance ?
Hein ? On l'aura fait, qu'est-ce que vous en pensez ?
La première alliance ?
Il y a Josué.
Mais dans l'ancienne alliance, Abraham.
Oui, je sais bien.
Abraham, c'est dans la première alliance.
Oui, mais d'accord.
Et il sera appelé Israël. Mais...
Non, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans après ?
Qu'est-ce qu'on
on peut pas tous se souvenir, excusez-moi, mais on peut pas tous se souvenir.
Il n'y en a pas un seul qui sait l'histoire d'Abraham ?
Mais si, on la connaît, mais on ne voit pas 19 ans après, on ne voit pas très bien.
Les théologiennes, là, qui ont fait 5 ans de théologie, ça fait Abraham. Ah, Abraham n'existe pas en théologie. Ah, en théologie, Abraham n'a jamais existé, d'accord. Ok. D'accord.
Vous savez, il n'y a pas de preuve archéologique, ça n'a pas existé. C'est ridicule, quand même. De penser ça systématiquement.
Non, c'est pas nous, c'est un
mystère. Ah oui.
Donc c'est marrant, l'équivalent de Saint-Joseph, 19 ans après, il a 90 ans, et c'est là que il y a l'histoire de Sodome, hein, bon, avec son fils Lot, il se sépare de Lot. Mais oui.
Non, faites confiance, c'est 19 ans.
Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et il va, il quitte tout, sa famille, son pays, sa terre, et voilà. Il amène avec lui, il n'a pas d'enfant, il a pas de descendance, donc il a son neveu.
Voilà.
Bon, et puis ensuite, il a 99 ans lorsque il reçoit la communion eucharistique, l'eucharistique du Messie et le sang du Christ. Il le reçoit des mains, vous savez. Et puis ensuite il y a le chêne de Mambrai, il y a les trois personnages de la Très Sainte Trinité. Les trois personnages de la Trinité, c'est à 90 ans. Et la communion. Très bien. Et là, elle annonce donc de la conception d'Isaac. Voilà, 99 ans là. Il a 99 ans. Donc si vous vous y mettez à l'âge de 70 ans, vous inquiétez pas, vous avez encore peut-être une chance.
Vous vivez plus vieux ?
Non, pas du tout. Pas du tout, c'est nous qui allons vivre beaucoup plus vieux que eux. C'est tout à fait différent.
Abraham a vécu vieux quand même.
Quand même, on parle plus.
Mais c'est avant Noé qui vivait beaucoup plus ou moins calculé autrement.
Ah, on peut s'appeler aussi.
Oui, non, mais Abraham, c'est après Noé.
Oui, mais il a vécu vieux quand même.
Non,
Abraham, c'est après Noé.
Oui, on a compris. Mais il a vécu vieux.
Oui.
Au recul d'un année. Il a vécu plus de 100 ans, vraiment.
Donc, Zacharie et Elisabeth, pareil, c'était très, très vieux. Zacharie et Elisabeth, c'était très, très vieux. Pareil, Zacharie et Elisabeth.
Oui. Et les événements avant.
Alors. Donc pourquoi est-ce qu'Israël, à cause d'Abraham, à cause de la foi?
Bon, parce que ça devait se faire aussi, tout simplement. C'était
Non. Abraham aurait pu refuser.
C'est parce qu'il a.
Ça devait se faire.
Non, Abraham pouvait refuser.
De fait.
Non, il y a
parce toujours la liberté. Plan divin, on parle du plan divin.
Mais c'est jamais contraire à la vérité de à la liberté de l'homme.
Il y a personne qui attaque la liberté de l'homme.
Cassez-lui la gueule. Cassez-lui la gueule.
Abraham pouvait refuser, il y aurait eu un autre alors. Il y aurait dû se faire.
Ah, alors donc tu viens à dire que c'est pas quelque part, ça devait se faire.
Non,
se produire.
Ah, oui, parce que.
Griffez-le.
Jusqu'au moment où un homme accepte, donc c'est que ça devait se faire.
Oui, mais Abraham pouvait refuser.
Mais c'est évident. Griffez-le.
Non.
Ça va pas bien. Oh, je ne peux pas aller vous montrer, excuse-moi, je ne suis pas un dictionnaire, je suis qu'un pauvre être humain avec son petit vocabulaire.
Non, c'est par la foi. Dieu décide en fonction de la cause finale et par la foi.
Oui, mais
ça va par la cause finale. Donc c'est pas il fallait que, parce qu'il fallait, c'est dans ce processus-là. Tandis que pour Dieu, c'est par la cause finale. Donc c'est jamais il fallait.
D'accord.
Parce que nous, c'est pas Zeus.
Mais il me reprend, mais il ne me donne pas la raison.
Ah oui, non, mais lui, attends. Griffez-le, divorcez. Une seule solution, c'est le divorce.
Quand c'est mon frère, ça va être difficile.
Hein?
Quand c'est mon frère, ça va être
oui.
Non, rigole.
Pourquoi la France? À cause du nouveau Abraham, du nouveau Moïse. C'est tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Sinon, vous pouvez lire un petit livre qui doit se trouver, je ne sais pas, quelque part. Attends, les ascendances davidiques de la France. Vous voyez bien que dans la Bible, on voit que depuis Sem. Héber, depuis Abraham, Isaac et Jacob, parce que Jacob a eu comme enfant, bien sûr, les 12 fils d'Israël. Parmi eux, il y avait Gad. Et Dan.
Dan, la tribu de Dan.
Dan, pour l'Antichrist, et Gad, pour le roi de France. Donc les Gad ont donné Galate, ont donné Galilée, ont donné la carte de Galatis, comme ils disent en grec, Galatis et les Gaulois. Et c'est eux qui vont hériter de l'ascendance davidique à la mort de Jésus-Christ. Et ça, c'est marqué dans l'Évangile. Hein. C'est marqué noir sur blanc dans l'Évangile, d'après le Seigneur.
Bon,
on peut vous acheter une Bible, si vous voulez.
Non, j'en ai pas.
Bon, on va vous acheter dans l'Évangile.
Non, mais on va se trouver un lien qui
ira.
Non, mais on oublie, on a lu.
Oui, mais d'accord. Donc, on vous regarderez simplement ce travail qu'a fait le chevalier Cohen Libray. Sur les ascendances davidiques de la France. Et on s'aperçoit, père en fils, hein. Il n'y a pas un seul qui manque. Hein. Et ça aboutit au roi de France.
C'est extraordinaire. Que la France est ce destin.
Finalement. Et donc c'est marqué dans la Bible de A jusqu'à Z, ça aboutit en France. Et les soldats qui ont donné coup de lance d'un côté de Jésus pour donner au monde l'union hypostatique déchirée de Jésus, c'est des Gaulois. Des Gaulatis, des Gaulois. Ils étaient tous Gaulois. Ceux qui ont tiré au sort la tunique sans couture, c'est des Gaulois. C'était des descendants, oui. Des descendants des Sicambres, des descendants des rois Sicambres, tout à fait. Qui eux-mêmes descendaient, donc. Alors. C'est vraiment génial.
Pilate était Gaulois.
Pardon ?
Ponce Pilate.
Ponce Pilate était de Narbonne. Et oui, et son épouse aussi. Attention, vous allez vous prendre dans le papier.
C'était un neveu de Tibère. Pilate était apparenté à la famille impériale.
C'était les gens les plus nobles, les plus courageux de tout l'Empire romain. Donc l'empereur avait décidé que pour Jérusalem, ce serait des Gaulois. Alors, mais faut lire le truc de André Conybray. C'est facile à lire, et puis c'est délicieux, puisqu'il fait ses peintures, on voit même tout ça sous forme de... C'est un truc qu'il a fait avec des coloriages, des machins, des trucs, sans dire que c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Hein ?
Oui, il y a de la lumière, on peut vérifier s'il y a de la lumière là maintenant.
Je viens de recontrôler, je vais profiter pour téléphoner, là-haut j'avais une barre, tu vois.
Je vais brancher mon téléphone.
C'est une très bonne idée, frère Pierre.
Alors
pourquoi la France ? C'est la France maintenant, c'est marqué dans l'écriture. Mais pourquoi la France ? Pourquoi la France ? C'est très simple, le théologien vous dit, c'est en fonction de la cause finale. La cause finale, c'est le sommet. Le sommet, c'est le plus grand saint de l'ouverture des temps.
C'est ça.
Donc, c'est le roi de France, c'est tout, c'est très simple. On a même fait le Seigneur des Anneaux comme film pour comprendre, c'est le roi de Comté. Il est tout seul. Vous avez vu le film, le Seigneur des Anneaux ? Voilà, le roi de Comté. Le roi de Comté, il est tout seul. Hein. C'est un mec qui est tout seul. Hein.
Donc il n'est pas une toupie du tout, le roi de Comté.
Donc Monsieur Fredon, Samuel, tout ça. Monsieur Fredon, il représente le pape. Hein. Samuel représente tout sacerdoce, fidèle. Et puis Gollum, ça représente l'humanité qui lutte contre la tentation, qui chute tout le temps, qui lutte encore, mais qui chute, et puis qui continue à lutter contre la tentation, mais qui lutte. Et le pape, M. Fredon, il utilise cette humanité qui lutte, sans y arriver, qui tente tout le temps, pour arriver à mettre l'anneau du mal et la destruction du mal dans le feu. Mais ça, c'est sous l'influence du roi.
Oui. Oh, il faut pas oublier que l'auteur de cette épopée est pétri de
du roi de Condor. Et il y a Saint-Michel Archange qui est représenté par Mathieu. Ce truc, Seigneur des Anneaux, c'est complètement prodigieux. C'est un grand catholique, mais c'est un autre grand catholique qui l'a mis en film.
Il faut le voir, il faut voir tout. Et en plus, ils sont très, restés très très fidèles.
C'est une espèce d'épopée.
Je vais mettre mon téléphone en charge.
Prophétique. Des inscriptions prophétiques sur l'Église catholique. Dedans, il y a les rois d'Angleterre. Il y a tout là-dedans. Il y a les rois d'Angleterre.
Si quelqu'un veut mettre la table, on
va pas manger maintenant, si.
Il est 2h30.
Hein. Dans une heure, hein, parce qu'on sort à peine du
petit-déj. Dans une heure.
Ah, bon. Ah oui, dans une bonne heure. Oui, mais,
il faut faire les deux d'abord.
Non, mais il n'y a pas d'avant.
Hier, c'était 2h30. Hein,
oui, mais là, ce sera 3h30, 4h. Alors, oui. On sort du petit-déj. On ne va pas manger. Hein.
Et Louis XVII,
vous avez... J'ai même pas décollé mes... Si, j'ai décollé mes fesses de la chaise, elle est tombée par terre, même, c'est vrai.
C'est pas là, je l'ai pas vu.
C'est à cause de l'évêque. Louis XVII, ça n'a aucune chose d'importance. Bon, Louis XVII, bien sûr que Louis XVII, il a une descendance. Bien sûr.
C'est pas lui, donc il est pas mort.
Non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le grand monarque est un descendant de Louis XVII. C'est pas parce que Louis XVII a eu une descendance et a échappé que c'est pour autant que le grand monarque soit un descendant de Louis XVII. Ça, c'est pas forcé. C'est pas forcé.
Après toutes les écritures.
C'est pas forcé. Ce qui est forcé, c'est que c'est le grand saint des temps qui s'ouvrent. Il est de la descendance du roi David, c'est tout, et puis c'est tout, et que qu'il est le roi légitime, parce que personne ne le savait que c'était Saint-Joseph qui était le roi légitime. Il y avait 500 ans qu'elle n'avait plus droit à légitime en Israël. Hein, 500 ans. Et c'est son mariage avec Marie, comme le montre la généalogie dans l'évangile de Saint-Luc et de Saint-Matthieu, qui montre que ce mariage fait que Joseph, le jour de ce mariage avec Marie, devient le roi légitime d'Israël par la loi du sang, par la loi, par la succession légale, et par la succession légale. Les trois se rejoignent, tac, pour la première fois, pour la première fois depuis Sédécias. Donc la royauté s'est éteinte au temps du prophète Daniel, elle a réapparu le jour du mariage de Marie et Joseph, et c'est pour ça qu'il y a les deux généalogies dans l'évangile de Saint-Luc et de Saint-Matthieu, pour donner avec la plus grande précision ce fait. Et c'est pour ça que Ponce Pilate a mis Jésus roi des Juifs, il ne l'aurait jamais mis s'il n'avait pas la preuve que Jésus était le roi légitime d'Israël. Et il a eu cette preuve par Joseph d'Arimathie. C'est parfaitement la truc. Et un an après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, cousin germain de Saint-Joseph, est parti avec sa fille, Théosophie. Il a quitté la Palestine et est allé en France. Il a marié sa fille avec la descendance légitime, nouvelle, illégale, des successeurs d'Abraham, Isaac, Jacob, en Judas. Non, il n'y a personne. C'était deux jumeaux, vous savez, deux jumeaux. Important, les jumeaux. Alors, ça s'est éteint avec Jésus. Il n'y avait pas de descendance, Jésus, donc il a fallu remonter. D'après les lois du Lévitique, hein, du Lévirat, il a fallu remonter jusqu'à Judas, qui a eu avec Tamar deux jumeaux. C'est ça. Et donc, il a fallu passer au deuxième jumeau. Lequel avait le droit d'aînesse? Est-ce qu'on le sait, lequel a le droit d'aînesse? Est-ce qu'on le sait, lequel a été né le premier, a été conçu le premier? On n'en sait rien. C'est comme mon frère et moi. Qui le sait? Alors, du coup, en tout cas, c'est passé sur le deuxième. Et c'est allé sur les rois Sicambre, qui ont eu automatiquement la descendance légale. Et la descendance du sang est venue par Joseph d'Arimathie, la marié là tout de suite. Et il a fallu attendre l'héritage de la loi salique, enfin de l'Évira, pour atteindre. Et c'est là, ça, c'est le jour, ça, et ça s'est produit avec l'époque de. Constantin, avec la fille, petite-fille de Constantin.
Est-ce qu'il y a un chargeur
du chemin? Et c'est là qu'il y a eu la roi d'Ioté est réapparu. Pareil, 500 ans après. Et ça a été le roi Clovis. C'était le premier roi d'Avidique de France.
Ça veut dire que le grand moulin ne serait pas forcément l'issue de l'hôtel?
Pas forcément. Ça pourrait, mais c'est pas forcé. C'est pas forcé, c'est le roi légitime. Saint Joseph, d'après la généalogie, c'est l'unique roi légitime. L'unique. Mais pour ça, il faudrait savoir lequel. Je sais pas, moi je suis pas un spécialiste, il faudrait demander ça au chevalier Cohen d'Ibraël.
Je vous donne une information.
Je suis avec une personne que vous avez connue il y a longtemps, l'autre, que vous avez monté là. Et on est en train de. Elle avait reçu beaucoup de choses, parce qu'elle avait reçu la carte de l'innocence divine. Et on est en train de prier devant un sacrement à la maison. Et alors on parlait de tout ça. J'ai 5 cassettes d'elle et je n'ai pas le droit de les diffuser. Hein. Mais à un moment, on est en train de parler devant le Seigneur, donc justement du futur roi et tout ça.
Non, c'est là, c'est
le côté. Seigneur qui lui a répondu, le futur roi, c'est moi.
Ah ben évidemment. C'est
sûr. Alors c'est le Christ roi qui est le véritable régnant de France.
Bien sûr.
Il n'y aura pas un chef d'affaires ou qui sera.
Ça c'est évident.
Un roi.
Alors je vous dis, dans les années 60. Vous savez que dans sous Paul VI, vous savez qu'à un moment donné, la Vierge de Fatima, la statue de Fatima, a fait un voyage dans le monde pour la paix. Et une des personnes s'est trouvée s'est trouvé une personne de Paray-le-Monial, de Cluny plutôt, s'est trouvé en Syrie au moment où la Vierge Marie était en Syrie. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a donné un message en disant « La Syrie est la clé de la paix dans le monde. Ce sera le pays qui pourrait jouer, voilà. » Et Hélène, elle en a un chargeur, elle a le même que le mien. Peu de temps après, toujours au temple 6, à Cluny, une ménagère, une brave dame catholique, bon, je sais pas bien, était en train de faire son ménage. Et dans cette région, dans les campagnes, il y a deux entrées, si vous voulez. Et on cogne à la porte arrière de la maison, donc de la cuisine. Alors elle y va, et elle voit un monsieur avec un panier. Et il lui dit, tu me reconnais? Alors pour faire interloquer un billet à la française, elle dit, on est voisins, on a été présentés, enfin elle était un peu interloquée. Alors il regarde et lui dit, écoute, si tu ne me reconnais pas, tu n'as qu'à regarder dans le panier. Et alors elle regarde dans le panier et elle voit la tête de celui qui lui parle. C'était Louis XVI.
La tête de Louis XVI?
Non, Louis XVI. C'était Louis XVI qui lui parlait.
Ah, de Louis XVI, oui.
Elle a vu la tête de celui qui lui parlait dans le panier.
Oui, d'accord.
Alors, il lui dit, c'est un descendant de mon union avec Marie-Antoinette qui viendra sur le trône, qui remontera sur le trône, et c'est avec lui que se ferleront les lys. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quelques années après, quelqu'un est allé à Saint-Denis et a pris la photo de la tombe de Louis XVI. Alors j'ai cette photo. On voit le panier, les traces de sang, la guillotine, la lunette où la tête a été tranchée, et on voit, et ça c'est très étonnant, on voit une tête, un profil de trois quarts d'un homme armé. Il a le casque romain avec les ailes gauloises. Or, ça c'est extraordinaire. Or, quand Constantin va combattre son collègue à Rome, il va bientôt rétablir les. Hein, il va descendre sur Rome pour. Il va donner la liberté religieuse. Il va constituer son armée avec des Gaulois. C'est-à-dire il va réunir les troupes et à Lutèce, à Paris, et les troupes qui vont descendre sur Rome pour foutre en l'air celui qui gouverne.
Mais non, il était sur la Méditerranée.
Non, avant, il était à Cologne. De Cologne, il passe à Lutèce. À Lutèce, il réunit les troupes. Ça, c'est historique. Il réunit les troupes avec.
Au sud de la France, il a réuni ses troupes. C'est là qu'il a eu l'apparition de la Croix Glorieuse.
Ah, il a eu la croix
Valmer, près de Saint-Tropez.
D'accord. Mais
sur la place Vergent.
Il était à Cologne quand il décide de.
Mais oui, mais il circulait tout le temps les légions romaines.
Bon, et il a réuni ses troupes à Paris. Et il est descendu après. Et on voit ça. Et on voit le casque romain avec des ailes gauloises, des ailes du casque gaulois. Voilà. C'est tout. Moi, je dis ce que. Je peux vous montrer la photo.
Mais moi, je suis tout à fait de votre avis. Mais c'est un avis personnel. Je pense que oui, c'est vraiment un descendant de sang. Pourquoi?
C'est possible.
Pourquoi? On a appris à
mais
quel point.
C'est pas ça qui compte. Que je voudrais quand même.
Bien sûr, c'est pas important.
C'est la quatrième fois que vous nous branchez là-dessus. C'est possible, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est la foi
et
la sainteté du roi.
Oui, bien sûr.
Le reste n'a aucune espèce d'importance. Aucune.
Oui, mais.
c'est pas parce que ça n'a pas d'importance. Non, c'est pas parce que c'est pas
complètement périphérique, qui n'a strictement rien à voir.
Oui.
Avec, bon, ça a à voir avec tous les grands spéculateurs.
Oui, mais il faut que bien que ce soit une simple personne. Et pour ça, il faudrait aussi qu'il ait eu du.
C'est
pas bon. Oui, mais je comprends ça.
Oh, Robert, attends, fou.
Non, non.